Donc du coup, nous avons moins de temps, nous avons... il ne nous reste plus qu'un quart d'heure. Donc Hervé Kempf va nous présenter son livre, mais au-delà de son livre, donc ses travaux, ses réflexions, son message sur la répartition des richesses, sur ce que l'on va faire devenir, le devenir de cette planète si on continue à consommer de la même façon, sur nos égoïsmes. Donc je donne la parole à Hervé Kempf.
Eh ben, merci Jean-Louis. Alors, il faut se réadapter parce que c'était, c'était très beau et puis plutôt joyeux. C'était Véronique de Messager, je crois. Voilà. Et puis, on est dans un cadre enchanteur, selon le bon vieux cliché journalistique. Donc, je vais un peu casser l'ambiance. Mais... pour ceux qui ont été attentifs, depuis 2-3 jours, moi je suis arrivé hier, mais j'ai eu le temps de passer du pire au meilleur, de ce que nous racontait hier Michel Rivasi sur les pollutions électromagnétiques, à la contre-visite pleine d'humour des amis dans les rues dont j'ai oublié le nom, avant d'avoir des bonnes discussions le soir avec tel et tel, et puis de voir tout à l'heure ce film d'Éric Guéret tout à fait... impressionnant pour ceux et quelques-uns qui l'ont vu, sur les femmes sans domicile fixe, ou plus exactement, comme l'a dit bien Éric Guéret, sans identité fixe. Alors voilà, ce que je vous propose de faire, c'est de parler un peu, parce que Jean-Louis a eu la grande honnêteté de me dire qu'il n'avait pas lu le livre, donc ce qu'on a convenu, c'est que je fasse un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que je fais une présentation rapide et sommaire, d'à peu près 20 minutes du message, comme tu dis. Et puis après, on discutera. Et alors, je dis casser l'ambiance parce que je commence par... j'ai pas mes notes, là. Voilà, on va y aller.
Mais tu as une belle voix.
casser l'ambiance pour dire que, en fait, nous vivons nos générations... génération de mes parents, la mienne, ceux des plus jeunes d'entre nous, il n'y en a pas beaucoup ici, j'entends des enfants, mais ces 3-4 générations, nous vivons un moment historique de l'espèce humaine. Alors vous me direz, le mot historique est galvaudé, par définition, toute époque est historique, mais on vit ce moment très particulier de l'histoire où l'espèce humaine rencontre les limites de la biosphère. Depuis 1 million, 2 millions d'années que nous existons en tant qu'humains, nous rencontrons ce moment unique où nous atteignons les limites de la biosphère. Et ça n'est pas être emphatique de le dire, c'est au contraire prendre la mesure de la responsabilité énorme que nos générations vivent et ont à assumer. Parce que, évidemment, cette rencontre, comme vous le savez, ne se fait pas dans l'harmonie ou dans la beauté de ce gai et magnifique duo que nous avons entendu, mais dans une crise majeure, une crise écologique qui, elle aussi, est majeure et a un caractère véritablement historique. Alors, je ne vais pas vous la détailler ici. Vous êtes, j'en suis sûr, si vous venez au Festival du Vent, averti des principaux aspects de cette crise écologique qui se manifeste d'abord par le changement climatique. Je dirais juste un mot sur le changement climatique, c'est qu'une inquiétude particulière que nous transmettent les climatologues et les scientifiques depuis quelques années, et c'est réellement nouveau dans le champ de la connaissance scientifique, c'est que nous pourrions atteindre un seuil au-delà duquel le système climatique ne serait plus récupérable. On n'est pas dans une situation où le réchauffement pourrait se produire, mais pose comme hypothèse possible les scientifiques, dans une situation où nous pourrions atteindre un seuil de réchauffement au-delà duquel le système climatique ne serait plus rattrapable. Et puis, même si, et tant mieux, on parle beaucoup du changement climatique, ça n'est cependant et malheureusement qu'un volet de la crise écologique. Deuxième volet, la crise de la biodiversité. Moins connue, moins bien décrite par les scientifiques, une connaissance qui est encore moins bien cristallisée que ça n'est le cas pour le climat, mais une crise majeure dont une seule expression nous donnera la mesure, elle est passée dans le langage officiel lors d'une conférence sur la biodiversité au Brésil l'année dernière, nous serions, nous disent les naturalistes, les écologues, les biologistes, dans la sixième crise d'extinction d'espèces de l'histoire de la vie sur Terre. La cinquième, je vous rappelle, c'était il y a 65 millions d'années, la crise d'extinction des dinosaures. Et puis, troisième volet de cette crise, qui ne peut pas seulement se résumer, comme si ça ne suffisait pas, au changement climatique et à la crise de la biodiversité, une crise de contamination chimique, de contamination électromagnétique, de contamination radioactive, d'un ensemble de pollutions qui s'accumulent et qui contaminent à des doses, certes encore unitairement, pourrait-on dire, minimes, mais l'ensemble de la biosphère et des êtres vivants. Alors, quand j'ai dit ça, en fait, je ne vous ai rien appris jusqu'à présent, parce que nous le savons tous et vous le savez tous. La question que je me suis posée en démarrant ce travail qui a conduit à ce livre « Comment les riches détruisent la planète », c'est pourquoi, alors que finalement nous connaissons tout ça, et nous le connaissons finalement bien, et puis nous ne le connaissons pas d'hier, nous le connaissons depuis au moins une quarantaine d'années, depuis les années 60, quand Rachel Carson et d'autres ont lancé les premières alertes écologiques, et puis depuis 72, quand les écologistes, la gueule ouverte, le mouvement de la Terre aux États-Unis, la conférence de Stockholm, etc., etc. Cette connaissance a toujours été là, a toujours été dans le même sens, c'est accumulé, c'est précisé, c'est détaillé. Et ça n'est pas d'hier que nous savons qu'il y a cette crise écologique et que... Et voilà. Et pourquoi est-ce que nos sociétés n'y répondent pas, finalement? C'est-à-dire ne prennent pas réellement le changement de direction qui s'impose. Même si quelques signaux, et on en reparlera sans doute dans la discussion, tel le Grenelle, l'environnement, envoie des signaux intéressants. Et pourquoi globalement nos sociétés ne bougent pas? Et la réponse que j'y apporte, et je vais essayer d'argumenter rapidement, c'est que nous sommes dans un système social, un système de pouvoir, comme dans toute société, mais un système de pouvoir qui dans la nôtre fonctionne d'une manière telle que l'oligarchie, les classes dominantes, les classes dirigeantes, appelez ça comme vous voudrez, peu importe, sont dans une situation où elles bloquent ces évolutions nécessaires, et on ne peut comprendre cela qu'en articulant la crise écologique à la crise sociale. Alors un mot sur la crise sociale, qui n'a pas le caractère historique premier de la crise écologique, mais qui est quand même un élément essentiel de la période que nous vivons. Je vais aller vite, j'avais presque envie de me référer presque à ce film de Eric que certains d'entre vous ont vu cet après-midi, Eric Guéret, sur ces femmes sans identité, sans papier, sans logement, qui dorment dans les rues de Paris. Et de voir que, alors que nous sommes la société la plus riche, presque de l'histoire de la planète, en termes de puissance matérielle, d'accumulation de biens matériels, et nous avons encore des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans les rues. Et puis, plus globalement, un retour de la pauvreté dans les pays riches. Je ne rentrerai pas dans les détails statistiques, le temps nous manque, mais ce fait est majeur. Le maintien, la persistance d'une pauvreté invraisemblable, elle aussi, à l'échelle mondiale. Vous connaissez ces chiffres, il faut prendre avec les pincettes nécessaires, mais qui expriment une part de vérité. Essentiel, c'est que on dit que 2 milliards de personnes, c'est-à-dire un tiers de l'humanité, vit avec moins de 2 dollars par jour. Voilà. Donc le maintien de cette pauvreté très importante, son retour même, c'est-à-dire que dans les pays développés, la tendance qui était historique depuis, en gros, les années 40, au recul de la pauvreté, s'est inversée depuis quelques années, et qu'on observe un retour de la pauvreté. Et puis le deuxième aspect de cette crise sociale, le fait que les inégalités se sont énormément accrues, et là aussi, depuis à peu près une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'une chose dont on n'est pas suffisamment averti, j'allais dire dans notre culture commune, dans notre conscience commune, c'est à quel point le capitalisme a changé depuis une vingtaine d'années. Nous étions depuis les années 40, les années 50, et ce qui s'est passé avec les 30 Glorieuses, dans un capitalisme en quelque sorte social, c'est-à-dire qu'il y avait une capacité redistributive efficace, du fait des rapports de force, du fait des rapports de force sociaux, etc. Mais toujours est-il que la machine fonctionnait bien, c'est-à-dire que les gains de productivité, qui étaient l'accroissement de la richesse matérielle qui était réalisée par ces sociétés, étaient assez équitablement distribués. Et puis, à partir des années 80, changement de tendance. Et pour l'illustrer, je ne prendrai qu'une étude, mais il y en a de nombreuses dans ce sens-là, mais j'aime bien cette étude parce que, comme vous allez le voir, elle est très parlante sur le plan graphique. Ces deux économistes, Friedman et Sachs, qui ont comparé l'évolution depuis les années 40, ils ont étudié les 500 plus grandes entreprises américaines, et ils ont comparé le revenu moyen des trois principaux dirigeants de ces 500 entreprises au salaire moyen des employés de ces entreprises. Donc ils ont regardé comment ce ratio, qui est une mesure sommaire de l'inégalité, évoluait. Et alors je vous demande d'imaginer, parce que nous n'avons pas de... mais peu importe. Et donc la courbe est assez stable entre les années 40, 50, 60, 70, elle oscille sur un chiffre de 35. Les patrons, en gros, dans ces entreprises, gagnent 35 fois plus que le revenu moyen des années de leurs employés. Et puis, observe Friedman et Sachs, un décrochage à partir des années 80. Et on commence à monter, à monter, à monter, jusque les années 2000, moment où s'arrête leur étude, où le rapport est passé à 150, à 200. Voilà. Et donc, on est dans cette situation où les inégalités ont recommencé à croître de manière spectaculaire et qui atteignent un niveau que l'on n'avait pas vu depuis la fin du XIXe siècle dans les pays occidentaux. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'écologie? Parce que, en tout cas, mon point de départ est toujours celui de la crise écologique. Pour faire ce rapport entre cette nouvelle situation sociale et cette crise écologique que j'ai décrite très sommairement au début, je vous propose de passer par un économiste américain qui s'appelle Thorstein Veblen, qui a eu son heure de gloire, ou plus exactement, qui était très connu parmi les penseurs économiques. Il a été rangé par certains au rang de Keynes, de Marx, donc c'est pas quelqu'un de tout à fait secondaire, et qui pourtant a été totalement oublié depuis une trentaine d'années. Et en fait, que dit Thorstein Veblen, ou que disait, il travaillait à la fin du 19e siècle, son ouvrage majeur et la théorie de la classe de loisirs, Veblen disait que un trait de la nature humaine, non pas que la nature humaine se réduise à ce trait, mais un trait fondamental de la nature humaine est la tendance chez chaque individu, chez chaque personne, à manifester par un trait ou par un autre, par un aspect extérieur ou par certaines particularités, une différence par rapport à ses congénères. C'est une sorte de rivalité ostentatoire. C'est marqué qu'on est différent. Alors Veblen n'apporte pas de jugement moral là-dessus. C'est pas en soi quelque chose de négatif. On pourrait même dire que c'est une façon de marquer la personnalité de chacun. Mais toujours est-il qu'il observe que c'est un trait, selon lui, essentiel à la nature humaine. Et puis par ailleurs, observe-t-il, en s'appuyant sur de nombreuses observations anthropologiques de son époque, toutes les sociétés accumule des richesses au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire leurs besoins, non seulement essentiels, mais même un peu superflus. Se nourrir, se loger, s'occuper des enfants, la convivialité, etc. Et pourtant, observe-t-il, presque toutes les sociétés accumulent, produisent de la richesse au-delà de ce qui leur est nécessaire pour satisfaire ses besoins. Alors là, Thorstein Veblen fait une première rupture théorique, aussi bien avec ce qu'on appelle maintenant les néolibéraux qu'avec la pensée marxiste, qui résonne toujours dans l'idée que les besoins humains sont toujours illimités et le problème économique, c'est la production. Il faut toujours produire plus. Et puis après, les marxistes diront, bon, comment on fait la répartition? Et les néolibéraux se disputeront avec les marxistes sur la répartition. Mais sur ce point-là, la production est toujours insuffisante, les besoins illimités, ils sont d'accord. Thorstein Veblen fait la rupture théorique. Non, les besoins ne sont pas illimités, ils sont assez bien satisfaits, et si la société est dans un jeu de poursuite d'une production toujours croissante, c'est parce qu'ils sont tirés par des besoins qui sont stimulés par le jeu social. Et donc, le problème économique est celui de l'analyse du besoin. Alors, poursuit-il, dans toutes les sociétés, ou dans beaucoup de sociétés, il n'y a pas un discours non plus tout à fait universaliste, dans toutes les sociétés, ou dans beaucoup de sociétés, pardon, ce phénomène qu'on observe entre les individus joue entre les classes. Autrement dit, toutes les sociétés vont être, ou beaucoup de sociétés, pardon, vont être divisées en classes, en couches sociales, en groupes sociaux, appelez ça comme vous voudrez. Et la rivalité ostentatoire qui se produit entre des individus va prendre comme modèle les habitus, les normes, les modèles, les modes de vie, plus exactement, définis par la couche supérieure au-dessus. Autrement dit, on verra que ce qui est chic, un moyen de se distinguer de ses comparses, c'est d'imiter un petit peu la façon de vivre de ceux qui sont mieux lotis, qui sont mieux dotés, qui sont plus riches, etc. Et puis, chaque couche sociale fonctionne un petit peu de cette manière-là. Et c'est au total, explique Veblen, ceux qui sont au sommet de la société qui vont donner le tempo, qui vont donner le là, qui vont donner les normes, qui emploient l'expression de les normes du savoir-vivre, c'est-à-dire de ce qui est chic. On va prendre un avion privé pour aller en Patagonie, alors la classe inférieure voudra prendre un avion en business class pour aller à New York, et puis en dessous, on prendra un charter pour aller en Tunisie. Enfin, voilà, on est un petit peu sur ce genre de mécanisme d'imitation et d'imitation des normes données par la couche sociale la plus élevée dans la pyramide. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une société très inégalitaire? Eh bien, il se passe que la classe supérieure va être dans elle, qui est elle aussi d'ailleurs dans une rivalité ostentatoire. Mon yacht est plus grand que le tien, il fait 100 mètres de long, alors que toi tu n'as que 80 mètres de long. Ou tu as le plus bel avion privé du monde, et bien tu vas voir, moi je vais lancer une fusée qui permettra, etc., etc. Plus la société est inégale, plus la couche supérieure va être dans une rivalité ostentatoire et dans un gaspillage intense, et va donc définir pour toute la société un modèle de surconsommation, de gaspillage, d'ostentation démesurée, de gâchis, qui va se répandre chacun à sa mesure du haut en bas de la société. Alors évidemment, quel est le problème qui se pose sur le plan écologique? C'est que dans la situation actuelle où nous avons une inégalité très grande et une consommation matérielle extrêmement grande, notamment donnée par le modèle d'en haut, et qui se traduit par un modèle de surconsommation qui est répandu, ou des valeurs culturelles de surconsommation matérielle qui sont répandues en quelque sorte du haut en bas de la société, par les canaux que vous connaissez bien, la publicité, la télévision, les magazines, l'observation de la mode, etc. Alors si on revient maintenant directement à la question écologique, il y a une façon assez simple, dans son principe, de prévenir l'aggravation de la crise écologique, c'est de limiter, de réduire même notre impact collectif sur la biosphère. Et réduire notre impact collectif sur la biosphère, c'est là encore dans son principe assez simple, ça revient à diminuer notre consommation matérielle collective. Diminuer nos prélèvements de bois, d'or, de pétrole, de zinc, d'étain, que nous allons transformer en montres, en micros, en gobelets, etc., en iPod, Wi-Fi, ordinateur, avion, 4x4, yacht, etc. Alors, réduire la consommation matérielle, on ne va pas le demander aux 2 milliards d'individus qui gagnent moins de 2 dollars par jour, ou qui ont comme revenu 2 dollars par jour. On ne va pas d'ailleurs non plus le demander dans les sociétés développées aux 30, 40, 50%, 30% de gens qui vivent dans une situation précaire. Et puis, on ne va pas seulement le demander aux 3, 4% de l'oligarchie au sommet, qui même s'ils consomment des yachts, des maisons de 400 mètres carrés au-dessus d'Ajaccio, etc., ont collectivement un impact sur la biosphère relativement limité. C'est à l'ensemble des classes moyennes, par exemple, nous tous ici, vraisemblablement, moi y compris, que l'on va demander de réduire cette consommation matérielle. Donc de changer d'habitude, de changer de comportement, de changer de mode de vie et d'aller vers cette évolution des modes de vie. Mais les classes moyennes vont sans doute pas accepter de prendre cette nouvelle direction si elles constatent qu'au sommet, on continue à aller passer des retraites de méditation à Malte en avion à bord d'un yacht.
Tu as des noms.
On viendra après dans le débat, mais évidemment, Nicolas Sarkozy est une telle illustration du phénomène, c'en est même une illustration tellement caricaturale, que c'est évidemment celui-là. Je le prends régulièrement comme exemple de comportement. Je crois Jaccio connaîtrait mieux les noms que moi. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que pour orienter, pour que les classes moyennes décident d'aller dans cette nouvelle voie, il faut passer par une réduction réelle de l'inégalité, pour des raisons d'équité évidente, et puis aussi pour des raisons de changement des valeurs culturelles, pour reprendre l'idée de Veblen. C'est-à-dire qu'il faut qu'au sommet de la société, on change les normes de ce qu'il est bien de faire, de ce qu'il est chic de faire, et qu'on ne peut pas le faire s'il y a une telle inégalité, une telle accumulation de richesses sur cette pointe effilée de la pyramide sociale. Alors voilà, c'était cette rapide introduction pour introduire un peu la discussion. Juste un mot pour nous finir sur un début de conclusion qui pourrait paraître un peu austère dans une époque où le brouhaha idéologique dominant nous dit que réduction de la consommation, changement de mode de vie, etc., c'est quelque chose d'absolument horrible. Il va de soi, en tout cas la discussion peut-être l'éclaira, qu'aller dans cette direction, c'est aussi opérer des transferts de revenus, de richesses et, j'allais dire, de capacités humaines vers d'autres activités, vers plus de travail dans le social, vers plus d'attention portée à l'éducation, vers plus d'attention portée à l'efficacité énergétique, à d'autres modes de transport, à une autre urbanisation, à la culture aussi, et que c'est une façon d'ouvrir les voies vers un autre monde.
Alors, trois petites demandes de ma part avant d'ouvrir le débat avec la salle par rapport à ton introduction. Première demande, tu as parlé de la prise de conscience. Donc la prise de conscience est plus, on va dire, plus forte actuellement que dans les années 60 ou 70 où finalement les messages pouvaient être entendus aussi. Ne crois-tu pas que on revient à être plus humble et à s'apercevoir que l'espèce humaine est finalement très proche de l'animal et que tant qu'il n'a pas le dos au mur, son temps de vie, qui n'est pas lié, enfin qui est vraiment epsilon par rapport au temps de vie de la planète, ne lui permet pas de s'apercevoir de l'urgence des problèmes qui se posent à lui. Et c'est simplement lorsque, finalement, la vie de ses enfants, la qualité de vie de ses enfants commence à être en danger, que la prise de conscience, telle une sorte d'alerte à la survie de l'espèce, que la prise de conscience se met en œuvre.
Je ne suis pas sûr justement que cette prise de conscience soit si grande que tu l'as dit. Ou pour le dire autrement, je pense que cette prise de conscience, mais je ne sais jamais pourquoi, j'ai un malaise avec ce mot qui me paraît quelque part, mais bon, peu importe, il est là, utilisons-le. Cette prise de conscience est faite assez nettement par les sociétés dans les pays occidentaux, par les classes moyennes, en gros, et même plus large d'ailleurs, mais absolument pas, ou très peu, ou très insuffisamment, par les élites, ou par ce que j'appelle l'oligarchie. Et Marie-Christine Blandin, je ne sais plus à quelle occasion, citait peut-être hier une étude qui a été faite par le CEVIPOF, qui est un institut de recherche de Sciences Po, il y a 3 ans à peu près, où ils interrogeaient un sondage d'une population moyenne, quelles sont pour vous les priorités. Et l'environnement, la question environnementale, venait en deuxième position. Vraiment à côté de l'emploi, et puis les mêmes chercheurs posaient la question à des politiques, à des députés, à des sénateurs, et quelle semble la priorité, et là l'environnement venait en 10e position. Donc là c'est un symptôme, c'est, pour répondre rapidement à ta question, c'est que cette prise de conscience me paraît être maintenant très forte, dans au moins les classes moyennes, et en partie aussi de ce qu'on appelle les classes populaires. Si vous voulez, on rediscutera de ces mots. Hein. On est encore mal à l'aise parce qu'il nous faut réintroduire le social dans notre réflexion. Indépendamment de ça, en sortant du marxisme, sans pour autant rejeter le marxisme, et donc on tâtonne un petit peu avec ces mots. Mais disons que ce qu'on appelle encore le corps central des sociétés, l'expression n'est pas juste, mais une très grande partie dans nos sociétés occidentales, et particulièrement en Europe, a pris cette conscience de la crise écologique. En revanche, l'oligarchie ne l'a que très imparfaitement fait et que très marginalement fait. Une deuxième chose, et j'insiste aussi là-dessus, nous n'avons pas assez pris conscience, les gens ne savent pas à quel point ce que j'ai décrit très rapidement tout à l'heure sur l'évolution des inégalités depuis 20 ans est importante. Et ça, cette prise de conscience n'est pas faite, c'est-à-dire on ne comprend pas, on ne sait pas à quel point le capitalisme a changé depuis 20 ans et que le capitalisme des années 2000, 2005, 2010, dans lesquels nous sommes, n'est pas le même capitalisme que celui des années 70.
Deuxième petit point, tu as parlé des inégalités donc, sur l'accumulation des richesses à l'intérieur de nos sociétés occidentales, mais je crois que le même phénomène se passe entre sociétés occidentales, on parlait, et pays en voie de développement. On ne sait plus trop d'ailleurs quel vocable mettre sur un certain nombre de pays, puisque maintenant ça recouvre un certain nombre de réalités diverses, mais l'accumulation des richesses entre un certain nombre de nations, on va dire entre le Nord et le Sud, là aussi, l'écart se creuse.
Oui, alors il y a ce chiffre qu'on connaît tous, qui là aussi est imparfait, mais qui exprime une grande part de la réalité. On dit que 20% de la population humaine, et en gros les pays occidentaux, le Japon et les États-Unis, prélèvent 80% pardon, de la richesse matérielle sur la planète ou des ressources de la planète. Bon, c'est un ordre de grandeur qui est grosso modo vrai. Alors après, j'appelle deux nuances. C'est effectivement la notion de pays en développement a été totalement transformée depuis 20 ans avec l'extraordinaire croissance de la Chine et celle de l'Inde, qui opère une redistribution, j'allais dire, des prélèvements écologiques, environnementaux, très grande, qui est encore mal mesurée, et qui se traduit notamment par l'émergence de... dans ces pays-là, qu'on appelle classe moyenne, mais qui en fait représente une partie assez faible de la population. Par exemple, en Chine, je faisais l'autre jour un dossier d'ailleurs dans l'Humanité, vous voyez qu'il m'arrive d'avoir de bonnes lectures, mais un bon dossier sur la Chine où ils interrogeaient des spécialistes qui disaient qu'il y a entre 60 et 150 millions de personnes qui sont dans un mode de revenu de 1000 euros par mois à peu près, quoi. Donc on a dans ces pays-là une évolution de la structure sociale qui change un petit peu effectivement le concept de pays en développement et de pays développés. Mais d'une part, il semble que la tendance au recul de la pauvreté en Inde et en Chine soit stoppée depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes d'inégalité énormes qui se développent dans ces pays. Et la deuxième chose, c'est que les Chinois disent à assez juste titre, de plus en plus nettement, que s'ils produisent beaucoup et donc ont un impact écologique qui est tout sauf négligeable, c'est pour fournir aux pays occidentaux des produits industriels à bas coût. Et donc on est là dans une chaîne mondiale, mais en quelque sorte c'est quand même la surconsommation occidentale qui a cet effet à distance sur la Chine et l'Inde. Alors donc pour répondre à ta question, j'espère que j'y réponds, ce qui moi me paraît et un autre aspect qui est important, c'est que, et c'est pour ça que Veblen, qui raisonnait dans le cadre de son époque, et qu'on peut avancer par rapport à Veblen, Veblen raisonnait dans le cadre des États-Unis. Il raisonnait dans le cadre d'une société fermée. Nous pouvons étendre la pensée de Veblen à la mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est pas seulement la mondialisation des transports, la mondialisation financière, c'est aussi la mondialisation culturelle. Nous savons tous ce qui se passe ailleurs, et particulièrement ceux qui sont en bas de la société. J'étais en bas de la société en termes monétaires, hein, bien sûr. J'étais l'année dernière en reportage au Niger, qui est, comme vous le savez, un des pays les plus pauvres de la planète. Je ne sais pas, il doit être en bagarre avec le Tchad et le Libéria. Et les gens regardent la télé dans la rue, sur des bancs. Il y a un épicier qui met la télé dans la rue, et les gens sont sur des bancs, ils regardent la télé, et on regardait les nouvelles de ce qui se passait en Irak. Je savais, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passait à Bagdad, les nouvelles sur l'Irak, puis après, il y avait une publicité. Donc, on est informé de ça. Et je veux dire par là que le modèle weblénien fonctionne, c'est-à-dire que les sociétés les plus riches restent quand même les sociétés occidentales, et au sein des sociétés occidentales, les États-Unis, et l'oligarchie américaine répand les normes, les valeurs de ce qu'il est chic et bien de faire sur l'ensemble des oligarchies de tous les pays. Parce qu'il y a aussi une oligarchie en Chine. Et les Chinois et les Indiens, pour ne prendre qu'eux, mais ça serait aussi le cas des Argentins, ou, etc., sont dans un regard sur comment vivent la classe supérieure à Hollywood, à Los Angeles, à New York, à Paris, à Londres, et donc sont dans ce processus d'imitation de ce qu'il est bien de faire.
Oui. Donc c'est le troisième petit point, c'est bien, tu fais la liaison, on a bien travaillé. Selon toi, donc enfin selon Veblen, l'économiste américain, Une des solutions serait que l'oligarchie change de modèle de consommation pour donner cette espèce de modèle aux classes moyennes et aux classes populaires. Mais n'y a-t-il pas aussi une alternative, peut-être un peu utopique, c'est que les classes moyennes et les classes populaires changent de modèle. Alors, dans cette société d'hypercommunication, d'hyperpeopleisation, comme on dit, puisque maintenant les oligarques russes sont dans les journaux People, ils sont ces modèles de consommation que tu décrivais très bien, ils sont complètement les milliardaires, d'ailleurs, tous les gens de la société du paraître, on va dire. Donc devient le modèle des classes moyennes et des classes populaires. On va prendre ce terme pour l'instant pour se simplifier la vie. Est-ce que à un moment donné, les classes populaires et les classes moyennes avaient aussi des intellectuels comme modèle? Il n'y avait pas que des mannequins, que des milliardaires ou des footballeurs. Est-ce qu'il n'est pas possible aussi, sans compter sur une sorte de retour à la vertu des classes de l'élite oligarchique financière, une possibilité que les classes moyennes et les classes populaires changent aussi de modèle et retournent vers des modèles qui sont peut-être d'autres classes dans la société?
Alors un point d'abord presque de méthode, Veblen n'est pas prescriptif. Il se place dans la situation de l'observateur et il dit voilà ce que j'observe et voilà comment je pense que ça fonctionne. Et c'est après nous qui pouvons intéresser par la force de cette analyse, l'appliquer au monde présent et en tirer une valeur prescriptive. Donc, en ce sens-là, c'est ça que je fais. Après, comme j'ai été très rapide, j'ai pas pu préciser que le pouvoir de l'oligarchie s'exerce aussi directement. Il ne s'exerce pas seulement par cette je cherche le mot, par cette façon de répandre un modèle culturel, d'exhiber un modèle culturel. Il a aussi des pouvoirs très concrets, politiques, économiques, en bonne partie médiatiques, qui est orienté vers une fin assez simple, qui est de maintenir la structure inégalitaire de répartition des revenus. Par différents moyens. Et donc, et notamment, donc par rapport à ce que je comprends de ta question, il détient notamment une bonne partie des pouvoirs médiatiques. Et donc répand aussi bien par la publicité, mais aussi par l'idéologie dominante. Quand je parlais tout à l'heure d'idéologie dominante, on pourrait dire par rapport aux impôts, par rapport à la réduction de la consommation, par rapport à la problématique de toute la décroissance en ce moment, on avait une idéologie dominante qui et qui est strictement dirigé pour penser une certaine ordre de choses qui est en faveur de l'oligarchie. Donc, il me semble que ce que tu évoques ne peut pas se passer sans qu'il y ait une remise en cause très forte des inégalités. Donc, pour dire les choses autrement, je pense effectivement qu'il y a une possibilité de mouvement social. Je pense qu'on ne serait pas tous là, et moi je ne ferais pas le guignol là, et vous ne seriez pas là à écouter, et puis bientôt on va discuter.
Lignos, c'est exagéré, tu n'es pas lyonnais.
On ne serait pas là, en tout cas, en train de discuter, si on n'était pas nous-mêmes aussi quelque part le mouvement social, et si on ne pensait pas qu'on allait changer les choses. Mais changer les choses en disant, c'est pas seulement moi je vais changer, je vais avoir un panneau solaire sur ma maison, et puis je vais prendre une voiture Prius, et puis je vais manger des poireaux d'agriculture biologique, et même ça sera très bien, j'irai chez Herman. Ça, c'est essentiel de le faire. Mais ça ne peut pas suffire si on ne change pas le modèle culturel général qui est déterminé par la structuration du pouvoir et du pouvoir économique. Et c'est en ce sens-là que là, effectivement, il faut qu'on revienne Et donc finalement, je te rejoins, si on dit bien ça, que ces classes moyennes ou classes populaires, et réappelons-les le mouvement social, refassent de la politique avec des objectifs clairs, et en disant clairement les choses sur la table. Nous ne voulons pas seulement sauver la planète, mais changer les rapports de pouvoir qui empêchent que l'on aille vers une autre société, une société qui ne soit plus destructrice de l'environnement, et destructrice au passage de du psychisme d'une grande partie de nos concitoyens, et aussi de cette souffrance qui devient de plus en plus grande, que ce soit chez les SDF et chez les autres. Donc là, ce que je peux dire s'arrête là, parce que c'est quelle est la capacité de la société à réinventer la politique, à refaire de la politique au bon sens du terme. Là, je ne sais pas.
D'accord. Eh bien, peut-être la salle peut réagir sur cette conclusion et ses doutes. Donc, allez-y. Si vous voulez vous approcher pour...
Non, ça suffit.
Mais levez-vous, comme ça tout le monde vous voit. Ouais, ouais. Ça, mais oui, n'ayez pas peur.
Non, vous pouvez vous sourire,
vous. Bah, il est tiré bien, ça fait tout.
Donc, juste pour demander, suite à un vieux papier du Grand Barbu, quand est-ce qu'on sort du fétichisme de la marchandise? Parce que, en dehors de ça, actuellement, culturellement, je crois que par capillarité, que par volonté, on est bien dedans. Hein. On est sorti de Max Weber. Il n'y a plus, chez les bourgeois, la volonté de l'épargne. La volonté de la démonstration. Mais...
Alors j'ai l'impression que le Grand Barbu auquel vous faites allusion est un dénommé Karl Marx.
Oui.
Fétichisme de la marchandise, c'est un de ses concepts. Alors je dois vous avouer que j'ai pas relu le Capital depuis.
C'est vraiment Capital.
Alors
c'est
voyez,
un
petit alors...
papier qui vient de ressortir chez Arléa, qui est le fétichisme de la marchandise.
Eh bien alors on va tous.
C'est un vieux, c'est un, c'est, d'accord. C'est de Marx le Jeune, et avant l'industrie 40.
Édition Arléa.
Oui, c'est un tout petit livre de moins de 5 euros.
Eh bien, écoutez, je vais le lire. Je vais le lire et je reviendrai l'année prochaine pour vous répondre, mais spontanément, parce que je ne me rappelle pas bien du concept de fétichisme de la marchandise. Mais. Mais c'est important ce que vous dites d'abord, parce qu'il y a le mot fétiche qui est absolument essentiel, c'est-à-dire que. Qu'est-ce que c'est un fétiche? C'est. Quelque chose qui, pour lequel on a un respect démesuré, alors qu'en fait c'est quelque chose de banal, mais qu'on investit d'une valorisation mythique ou sociale très grande. Et alors il y a plusieurs lectures après de ça, mais là on connecte assez bien avec Veblen, vous voyez bien. C'est-à-dire comment les objets, je ne vais pas avoir un 4x4 parce que j'ai besoin d'un 4x4, mais je vais avoir besoin du fétiche 4x4 pour signifier quelque chose. Derrière cette voiture à 4 roues, mais qui clinque, j'envoie un message à mes concitoyens, à mes congénères.
On le voit très bien aussi sur les prénoms des enfants. Hein. C'est la même logique qui s'applique.
Tout à fait. On prendra des mots qui correspondent bien à ces classes sociales et qui soient un signifiant important. Ben voilà un fétiche qui vient de sonner. Le fétiche de la communication immédiate. Et puis, il y a l'autre mot, c'est marchandisation. Je ne sais pas si sans doute Marx le disait, mais mes souvenirs sont un peu vieux, il faut que je replonge dans le Capital, mais en tout cas, je suis en train de lire Gorce, qui est un marxiste au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu fou, et qui explique bien ça. Et ce concept de marchandisation est tout à fait pertinent, c'est ce qui se passe aussi en ce moment. C'est-à-dire que le capitalisme, dans sa course invraisemblable à l'accumulation, accumulation des richesses vers le haut. Parce que quand on ne se suffit plus d'un avion privé et qu'on veut avoir une fusée qui permet de faire je ne sais pas quoi, il faut quand même qu'il y ait des milliards de dollars ou d'euros qui rentrent supplémentaires. Et donc, comment est-ce qu'on va générer ces milliards et ces d'euros supplémentaires une fois qu'on a mis X milliers de gens à la rue dans la précarité SDF? On va chercher à étendre les rapports marchands, à toujours faire rentrer dans l'univers de la marchandise, c'est-à-dire de ce que j'achète de ce que j'échange avec de l'euro. Voilà. Là, par exemple, ce petit morceau, un capitaliste conséquent aurait dit 3 euros. Voilà, etc. Donc voilà ce que ça évoque. Alors, après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement... il faut qu'on. Une partie des choses, c'est d'arrêter l'extension indéfinie de la marchandise. Commencer à dire, mais non, tout n'est pas. Tout ne peut pas devenir marchand. S'occuper de sa vieille mère ou de son vieux père ne devrait pas être commercialisé, sauf.
On jette le PIB par la fenêtre.
Alors c'est évident qu'on jettera le PIB par la fenêtre, mais avant de revenir là-dessus, je voulais prendre un exemple qui est très significatif, qui est aussi sur le temps. Par exemple. Une des premières mesures qui est sortie de cette commission pour la libération de la croissance, avant on libérait les prisonniers, les fous, etc. Maintenant on libère la croissance, c'est pas qu'elle est brimée.
Un mot, on libère beaucoup de choses, la circulation des capitaux, des marchandises, il n'y a que les hommes, que la circulation des hommes, on ne la libère pas.
Absolument. Mais d'ailleurs, c'est plus vraiment des œuvres, ça doit devenir aussi des marchandises. Bon, juste un mot, on fait un peu des coq à l'âne, mais par exemple, sur la marchandisation, ça porte aussi sur le temps. La première mesure qu'ils veulent sortir, c'est qu'on travaille le dimanche. Et que tout, il n'y ait plus un temps dans la semaine qui est un temps de repos de la société. Qui soit un temps sorti justement de l'ordinaire des rapports sociaux et qui soit un temps de. Alors après, c'est pas un hasard que les religions aient posé un jour entre guillemets sacré, mais c'est aussi le temps du repos, le temps où on retrouve sa famille, le temps où on sort de ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et voilà ce que c'est que la marchandisation indéfinie dans laquelle les gens qui prétendent nous gouverner veulent nous entraîner, c'est par exemple à tuer ce temps, à faire en sorte qu'on soit tous pris jour après jour, heure après heure, minute après minute, dans une activité permanente d'échange, achat, marchand, pour pouvoir produire et maintenir ce système.
Il y avait... Oui, madame,
vas-y. Excusez-moi, il me semble, vous disiez tout à l'heure qu'on était tous au courant du tout, partout sur la planète, et même il y a des très riches, peut-être aussi très au courant, qu'il y a des très pauvres. Et comment peuvent-ils continuer à fonctionner Parce qu'ils pensent qu'en présentement, ils ne pensent pas du tout sur leur avenir. Ils ne pensent pas à leurs descendants, ils ne pensent pas à leurs enfants, ils ne pensent pas à ce qui va rester, s'ils continuent à fonctionner comme ça.
D'abord, justement, on peut savoir beaucoup de choses sur ce qui se passe partout sans en avoir une expérience sensible. Un seul exemple. Là, je suis toujours surpris quand je fais un peu ce débat, et puis on parle de la crise écologique, et puis on est dans des lieux beaux, dans des atmosphères chaleureuses et agréables, et puis on dit contamination chimique, crise de la biodiversité... changement climatique. Donc même nous qui sommes ici avertis, attentifs à ça, il nous faut toujours un effort de pensée parce que ça ne correspond quand même pas à une expérience directe. La crise de la biodiversité, c'est bien, mais concrètement dans ma vie urbain, on est quasiment tous urbains ou semi-ruraux, etc., qu'est-ce que ça signifie? Comment en avoir perception? Donc déjà, c'est pour beaucoup de choses un effort de pensée. Le film de Eric Quéret, à un moment, il dit... on ne les voit plus. Je ne sais pas qui... Sans doute, il y a les Parisiens. Je ne connais pas à Marseille, donc il y a sans doute aussi des SDF. À Paris, on ne les voit plus. On ne voit plus les gens qui dorment là et que se lèvent vaguement à 6h du matin. On ne les voit plus. Alors, à Calvi, il y a sans doute des SDF, etc. Donc, même nous qui sommes avertis, qui nous sommes assez bas, enfin, classe moyenne, enfin, on n'est pas dans ces hyper-riches, il y en a peut-être, peu importe. Mais en plus, les hyper-riches sont dans une bulle, en dehors du contact avec la société. Ils sont dans des belles maisons, dans des quartiers réservés, à Neuilly en France, oui, je ne sais pas tout. Ils sont, attends, je finis rapidement là-dessus, ils vivent, ils vont à leur bureau, etc., par des voitures, ils vont passer leurs vacances à l'île de Ré, en Patagonie, ou je ne sais pas où, en avion. C'est-à-dire qu'ils sont, ils vivent d'une manière étanche, notamment à la réalité sociale. Donc éventuellement, ils verront, ils liront un article ou ils verront un reportage à la télévision, mais ils ne seront pas confrontés directement à ça. Quant à la question écologique, elle en sera encore plus longtemps.
Je pense que la question de l'inquiétude pour les descendants, c'est un peu le deuxième point que nous avons évoqué ensemble suite à ton introduction. C'est, je pense, enfin, je sais pas, je pense que quand même l'oligarchie, quand même financière, pense globalement à juste raison qu'avec leur réseau, leur argent, leur entre-gens, etc., leur descendance n'est pas en risque. Je pense qu'il y a ça fondamentalement. Alors que les classes moyennes et les classes populaires s'aperçoivent, voient bien qu'ils n'ont plus forcément les moyens d'assurer le confort de leur descendance. Ou le confort ou la survie, même si on va à l'exagération.
Oui, absolument. Ils vivent. L'oligarchie vit de plus en plus dans une bulle. Elle vit dans la bulle matérielle que j'ai décrite et qui est importante, faire de plus en plus. Tu en parlais tout à l'heure, Jean-Louis, moi je suis parisien. Et je vis dans le 6e. Enfin, je vivais, mes parents vivaient dans le 6e arrondissement. Pas parce qu'ils étaient riches, mais parce qu'il y avait un truc qui s'appelait la loi 48 qui permettait de vivre dans des logements avec des loyers extrêmement chers, etc. Et puis à l'époque, tous les quartiers de Paris étaient... il y avait un brassage social extrêmement grand. Donc moi, j'ai vécu à Paris, et je ne peux même plus maintenant vivre dans un studio dans le 6e arrondissement.
Qui... Oh, quand même.
Non.
Allez,
non.
Mais un non. Petit studio, allez.
Mais non. J'ai 5 enfants, je te promets que je ne veux pas vivre... J'aimerais bien, d'ailleurs. Je ne vous cache pas que j'aimerais bien. Mais non, ça n'est pas possible. J'ai une collègue qui me dit,
Elle a un 70 mètres carrés dans le 11e arrondissement à Paris. Elle paye 1700 euros. J'en étais sur les fesses. Voilà. Moi, personnellement, je vis à Paris que parce que j'ai un peu un semi-HLM. Enfin, c'est pas HLM, mais un truc. Tu vois, une aide sociale. Bon. Non. Pourquoi je disais ça? Si, parce que voilà, tu vois, c'était un endroit. Je vivais, il y avait des pauvres, il y avait des riches dans l'école, etc. Maintenant, tu vas dans le 6e arrondissement, c'est que des riches. Tu vas le marché Saint-Germain, qui, à mon époque, c'était des 4 saisons, il y avait des marchands de fruits et légumes, t'appelais. Maintenant, ça s'est transformé en boutique de luxe, Gap, machin truc. Et puis, il y a 3 épiceries de luxe où tu payes la moindre confiture de myrtille 15 euros, enfin, tu vois. Bon. Donc, il y a cet aspect, l'oligarchie se ferme. Elles se ferment physiquement dans des quartiers fermés, dans des villes fermées, et parfois même construisent des villes avec, tu vois. Et la deuxième chose, c'est qu'elles se ferment aussi socialement. Enfin, je ne sais plus si on est dans le sujet, ça me semble un petit peu, mais dans le blocage de l'ascension sociale, dans le fait que les classes se reproduisent. C'est l'exemple que donnait hier Boris Cyrulnik, à qui il manque quand même un petit peu d'analyse sociale quelque part, qui ne voyait pas que derrière le fait qu'on n'y avait plus dans les classes préparatoires de l'ENA ou de je ne sais pas quoi, il n'y avait plus que les gens d'un certain quartier, c'est parce que l'oligarchie s'est complètement fermée. Et donc, par exemple, à l'ENA, tu trouvais encore, il y a 30 ans, 15% de fils d'ouvriers, et puis 30 à 40% de fils d'employés. Maintenant, on reprendrait les statistiques, on trouverait 60% d'enfants de cadre supérieur. Donc voilà, on est dans cette situation où cette oligarchie, pour la plus grande partie d'entre elles, se ferme. Et effectivement, dans l'idée, et on le voit beaucoup aux États-Unis, où elle est dans l'idée qu'on va s'en sortir du changement climatique. Ok, il y a le changement climatique, et ben on va avoir nos propres générateurs diesel, on va avoir des maisons qui seront ceci, cela, et on va se protéger. Et puis une deuxième chose, c'est aussi qu'une grande partie de l'oligarchie fait un déni de la situation actuelle. Pourquoi croyez-vous que M. Allègre, quand il écrit son avant-dernier, pas sur tous les plateaux de télévisés, etc. Parce qu'il renforce l'idée. Mais non, cette question du changement climatique, c'est pas encore bien réglé. Il y a encore un doute scientifique. Et regardez, c'est M. Allègre lui-même, géologue, Académie des sciences, qui le dit. Donc on est encore dans une situation, même sur quelque chose qui nous paraît ici assez acquis. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus y avoir de débat, de réflexion, de recherche, évidemment. Enfin, il y a un corpus de connaissances qui est suffisamment lourd pour qu'il ne devrait plus être mis en débat, et toujours mis en débat idéologiquement par une partie de l'oligarchie. Donc je suis obligé d'être... comment dire? Il faut le dire. On est dans une situation où... c'est pas seulement les classes moyennes qui vont changer, il faut être dans une situation politique où le mouvement social doit réfléchir, et d'ailleurs il faut que tous ensemble on se demande qu'est-ce que veut dire le mouvement social et comment on va faire les choses, mais aussi il y a des lieux de pouvoir idéologique à reprendre, à renverser.
Une question là.
Victor, oui. Juste une question, ça c'est pas une question, c'est une réflexion. Quand on dit comment les riches les détruisent des mondes, je me poserai la question avant tout pourquoi, pour pouvoir les attaquer au fond de la chose. J'ai eu la chance, en tant que Chilien, je peux dire, de côtoyer toujours des gens très très riches. Mais plus je connaissais les riches, plus je choisissais mon chemin des pauvres. Plutôt. Pas pauvre, mais moins pas riche. Pourquoi? Je vous donne 2 exemples. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans le monde de la voix, le monde de l'être. Et les gens qui croient à ce monde de la voix, ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé au Chili, j'ai eu tout en un mois, ce que j'ai rêvé toute ma vie. Donc, quelque part, je me fais avoir dans ce monde de la mort parce que je n'avais plus de rêve. J'ai trouvé d'autres. Mais ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est qu'on est tellement dans ce monde qu'il y a un problème d'apparaître. Et c'est là qu'il y a le problème de la richesse. C'est là qu'il y a le problème, je vous dis pourquoi. Je vous donne deux petites anecdotes. La première, si vous voulez, quand j'étais à l'école très très riche au Chili, j'étais boursier, donc j'étais. Je me rappelle que la première fois, mon compagne m'invitait chez lui. C'était un riche, mais je ne pouvais pas imaginer comment il était riche. Je lui ai dit un jour, il m'amène avec son Jaguar, avec son père, et je lui ai dit, Jonathan, bon, quand on arrive chez toi, on est arrivé déjà depuis 1h30. Ça veut dire que le mec était tellement riche qu'il savait dépasser tout ce que je pouvais imaginer, mais pour moi, en même temps, ces mecs-là, c'était les plus tristes, angoissés. Et malheureusement, je trouvais tellement déjà angoissé. Angoissé pourquoi? Parce que lui, il voulait avoir plus que son père, y avoir.
Et c'est comme ça qu'il s'est fait avoir. Et comme je n'ai pas me faire avoir, j'ai dit que je ne vais pas aller dans ces chemins. C'est un exemple. J'avais été dans une formation au Chili, et j'avais acheté une moto, une Vespa. Mais j'avais la seule Vespa de ma population, la seule. Quand j'ai parti, tout le monde me faisait le stylo là. Les enfants, ils pouvaient la Vespa, mais je le croyais vraiment le roi de la savane. Mais les problèmes, c'est que la mesure qu'il avançait vers mon université, des riches, que les mecs, ils me laissaient même pas aujourd'hui à côté de Jaguar, une blonde, ils me voyaient moi avec ma Vespa. Putain, ils ne me connaissaient pas. Ça veut dire que je me suis rendu compte que si c'est ça être riche, il y a vraiment un problème. Quand j'arrive en France, j'ai connu de riches, j'ai connu tellement de riches que je peux vous dire une chose, que la grande angoisse des riches, c'est une mal-être qui meurt. Et c'est pour ça qu'il faut un plan d'économie.
Un mot rapide, c'est que tu décris totalement le schéma weberien, y compris avec ta Vespa, etc., où tu es le roi de la savane, mais quand tu arrives à l'université, tu reviens. Mais que par ailleurs, cette rivalité ostentatoire se fait aussi chez les riches. Donc tu as tout à fait raison. Ils sont malheureux. Mais c'est comme un drogué. Ou quelqu'un qui a fumé, c'est
l'addiction.
L'addiction. Tu ne peux plus t'arrêter. T'as un yacht de 100 mètres de haut, de long, il faut que tu aies autre chose. Et donc ils sont là. Alors moi j'étais même dans, parce que je rédige la suite d'un livre un peu sur les, aller plus vers le positif et les solutions. Alors parmi les petites idées marrantes que j'avais envie de mettre, c'est faire des cellules de soutien psychologique pour les hyper riches. Mais je me suis dit non, parce qu'il faudrait pas qu'on fasse pour les aider, parce que quand on va faire le revenu maximal admissible. On va le faire, c'est plus important que le RMI. Il y a Patrick Vizéret qui est là, je le salue, et c'est une des idées qu'il promeut avec tous les gens avec qui il travaille, et qu'il faut le transmettre le mot. L'enjeu, c'est revenu maximal admissible. Quand on va leur diminuer par 10, par 100, Lagardère, il va être malheureux. Déjà, il est malheureux parce qu'il est héritier sans avoir rien fait. Il dit lui-même, je suis incompétent, je suis malhonnête. Il se retrouve avec des milliards d'euros, il n'a rien fait pour ça. Il va être malheureux quand on va lui dire, écoute, mon vieux, là, ça revient au bien public. Bon, mais je ne voudrais pas, parce que soutien psychologique, on risquerait d'aller vers les camps de rééducation des Khmers Rouges ou des communistes. Donc, attention aussi dans les idées qu'on va avoir. C'est-à-dire, attention. Non, mais je parle sérieusement. Parce qu'il va bien falloir, quand même... Quand on parle de mouvement social, de politique, etc., il va bien falloir refaire ça, poser. Et ça ne va pas être simple, ça va être du conflit. Mais ce conflit, et là, c'est pour ça que j'emploie toujours cette prévention par rapport au marxisme, on a, notre génération, cette expérience historique formidable de l'échec d'une utopie. Et qu'il s'agit bien dans la nouvelle société qu'on va faire, ou appeler ça comme vous voudrez, on s'en fout, l'autre monde, en tout cas, le monde qu'il faut faire si on ne veut pas aller vers le chaos. Il va bien falloir, quand on réintroduit une sociabilité, de préserver les libertés, de préserver la démocratie, quel que soit ce qu'on appelle, etc. Donc voilà pourquoi j'hésite sur cette idée du soutien psychologique au risque, mais quelque part, ils auront un mal-être.
Là-bas, il y a une question. Vas-y. Juste une précision, c'est que le revenu maximal admissible est soutenu par le MEDEF. C'est un scoop. Le MEDEF étant le mouvement pour un espace de démocratisation de l'économie financière. C'est le MEDEF. Quand le collectif Richesse a lancé ça, on a dit on va lancer le projet de RMA comme alternative au... Non, c'était pas tant au RMI, à l'autre RMA qui est du travail forcé. Hein. On a appelé le revenu minimum d'activité, en fait c'est du travail forcé. Et donc c'est pour ça que je pense que dans les nouvelles formes de lutte et sociale et politique, la dimension de l'humour et la dimension du plaisir est essentielle. Parce que ce qui a beaucoup manqué aux traditions alternatives antérieures, et en particulier l'échec du mouvement communiste, se fait sur ce terrain-là, c'est que si on répond sur le terrain du militantisme sacrificiel, on ne sort pas de la toxicomanie. Simplement, on oppose à une toxicomanie de l'argent une toxicomanie du pouvoir. Comme les effets d'un système totalitaire de captation de pouvoir sont encore pires que les effets d'un système capitaliste de captation de richesse, eh bien, au total, dans la raison qui fait qu'à partir des années 80, on a une victoire idéologique de la révolution conservatrice anglo-saxonne, il y a aussi beaucoup, entre-temps, le formidable échec de ce que représente le projet communiste. Donc, moi, je trouve très intéressant à travers ce que tu nous dis que non seulement... tu fais ce qui est essentiel, le lien entre la question de la crise écologique et la crise sociale, qui est trop peu réalisé, mais en plus, tu fais notamment à travers Veblen, le lien avec une troisième crise dont on parle rarement sur le plan politique, justement, qui est la crise de nature psychique, anthropologique, et qui nous amène sur le terrain du désir. Et parce qu'on voit bien que là, c'est ce troisième terme qui à la fois est une des causes d'aggravation du problème, à travers toute l'analyse que tu fais en reprenant Veblen sur ce désir ostentatoire et qui traverse toutes les catégories sociales, mais ce qui est un problème supplémentaire peut être aussi une source de perspectives positives. Parce que pour reprendre ce que tu dis, si du côté des catégories populaires, des classes moyennes, etc., la nature de l'alliance n'est pas simplement une alliance pour la lutte pour obtenir ce que les riches ont obtenu ou pour faire baisser leur niveau, etc., ce qui restera dans le cadre de la toxicomanie, ce qui reportera de quelques années la crise écologique, mais qui la maintiendra, parce qu'après tout, si on était resté dans les projets sociaux-démocrates des années 60, si on était resté dans le rapport d'inégalité de 1 à 35 dont tu nous parles, on aurait reculé la crise écologique, mais on y allait quand même. Donc c'est au contraire, en allant travailler sur la nature même du désir, l'objet du désir, qu'on peut trouver des éléments de nature positive. Quand tu dis tout à l'heure la beauté, quand on voit ce qu'on vit à l'occasion de ce festival, la qualité d'amitié, la qualité de curiosité, de rencontre, etc., la plupart du temps, on fait comme si c'était simplement dans une petite case à part qui était personnelle. Et si ça, ça devenait les ressources fondamentales d'un projet social, politique et écologique, c'est-à-dire le désir même de mieux vivre, le désir de vivre de la qualité de relation avec la nature, avec soi-même, avec autrui, donc de réincorporer dans un projet de transformation collective ce qui classiquement est considéré simplement comme étant du registre de la transformation personnelle. Alors à ce moment-là, on a exactement ce que tu viens de dire à l'occasion, c'est-à-dire que l'une des ressources, c'est que la toxicomanie des riches, elle vient aussi de leur mal-être. Que les budgets essentiels de l'armement, de la publicité, des stupéfiants, etc., sont ce qu'on peut appeler les coûts du mal-être, coûts à la fois COUPS et COUTS. Et que si on attaque cette question du mal-être par du désir de mieux-être, par un projet politique qui inclut la joie de vivre dans son propre projet, alors à ce moment-là, il y a un ressort en termes de désir qui, me semble-t-il, devient un ressort positif. Et on n'est pas simplement dans la modalité classique de la lutte sociale antérieure dont on connaît les limites. Voilà, enfin, moi, c'est comme ça que je raisonne à ce que tu dis. Quoi.
Une analyse additive.
Mais je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit, ce que tu viens de dire, Patrick. Mais la politique, c'est aussi la question du pouvoir. C'est-à-dire.
C'est pour ça que le changement du rapport au pouvoir.
Patrick, on va laisser répondre. Non, ça va pas être un débat entre vous deux. Il y a d'autres personnes dans la salle qui ont voulu la parole.
C'est vrai que Patrick, s'il commence à parler.
Voilà, on va laisser aussi
parler. On se retrouve dans trois quarts d'heure, on est. Mais... Non, mais. Mais voilà. Non, mais là, on discute. Donc, on avance. Le fait que l'oligarchie soit dans le mal-être. Et qu'il soit indispensable de faire d'autres machines désirantes ou d'autres systèmes de désir où on retrouve la solidarité, le sens d'une relation sociale qui est d'ailleurs pas seulement de plaisir, mais de travail en commun, de confrontation en commun à des difficultés externes, etc., mais qui est aussi le plaisir, la joie, etc., hors sacrificiel. On te suit bien, mais malgré tout... Ceux qui veulent arrêter de fumer, c'est pas parce qu'on leur dit « Écoutez, ça sera beaucoup mieux quand vous arrêterez de fumer, vous retrouverez le souffle, vous pourrez courir, vous ferez ceci, vous ferez cela », qu'ils vont arrêter de fumer. Donc, il y a quand même, il va y avoir du blocage. Et le fait de développer tout ce que tu dis, et de le répandre, et d'en discuter, et de, etc., est essentiel, mais ne doit pas nous conduire à penser que ça suffit. Il y a bien la question de la politique, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire comment ensemble nous définissons le bien commun, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a aussi la question du pouvoir derrière la politique. Et parce que le pouvoir, c'est s'organiser. Quelque part, je ne vais pas prendre d'exemple, mais voilà, il y a la question du pouvoir. Si je vais prendre un exemple qui est important, même si on a à redéfinir ce que c'est le pouvoir, il va bien falloir au niveau collectif, humain, planétaire, trouver une solution au changement climatique qui passe par un accord global, qui passe bien donc par des échanges politiques, par une représentation politique, etc. Donc voilà, la première remarque que tu dis m'inspire, c'est que quand même, comment est-ce qu'on gère cette représentation nécessaire des choses. Et puis, le deuxième aspect, et qui moi me préoccupe beaucoup, parce que si je ne suis pas de gauche par essence, je m'en fiche, mais je pense qu'à la situation actuelle, c'est la solution ne peut venir que de la gauche. Et une gauche qui est totalement handicapée depuis X années, non seulement par sa soumission totale à la logique capitaliste, et son oubli total de la question sociale et son mépris continu de la question écologique, mais qu'elle a été aussi transformée psychiquement. Je veux dire par là, autant il est naturel que les gens de droite, ils sont dans une dynamique de pouvoir où il y a un chef, et une pyramide de succession de chefs. C'est normal, c'est comme ça que la droite raisonne. L'ordre, il faut l'ordre, et la façon la plus efficace d'avoir l'ordre, c'est d'avoir quelqu'un qui décide, et puis on fait une subordination, une hiérarchie des délégations. La gauche, elle doit raisonner autre chose, puisqu'elle dit que c'est la solidarité. Donc elle va aller vers des valeurs de coopération, elle va aller vers des valeurs de répartition, elle va aller vers des rapports de mutualité. Or, tous nos gens de gauche, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pris par l'égoïsme, c'est-à-dire cette focalisation vers l'individu, vers la recherche du pouvoir, et donc ils sont handicapés par la gauche. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en suivant tes idées ou en étant d'accord avec elles, il faut savoir aussi comment on les transforme dans la façon de... comment on les transfère exactement dans la façon de faire la politique. Parce qu'il va falloir aussi que les gens à qui on va déléguer collectivement... Moi, par exemple, je n'ai pas envie de faire la politique. Je suis journaliste, éventuellement j'écris des trucs. Voilà, toi, tu es... Je ne sais pas quel métier tu fais. Enfin, chacun d'entre nous, on ne veut pas forcément être délégué. Non, mais je veux dire, mais il nous faut des porte-parole. Là, il y a Michel Rivasi. Bon, bah, toi, tu es dans la politique. Il nous faut des gens qui fassent de la politique. Ou Marie-Christine Blandin, qui est aussi quelqu'un de très bien. Il nous faut ces gens-là. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que la parole, le truc circule? Donc il faut aussi qu'on arrive à refaire une psychologie du politique.
On dépasse l'économie, on revient un peu au psychologique aussi. Alors, hein. Il y avait une demande de parole là.
Oui, on rigole là de ces riches victimes de mal-être.
Parlez fort, hein, sinon.
Pour identifier récemment comme ennemi, donc bientôt comme adversaire. Et on va libérer de ce mal-être avec plaisir. Mais on parle de gens qui sont objectivement des coupables de crimes contre l'humanité. À chaque seconde qu'on passe ici, quelque part dans le monde, il y a des dizaines, des milliers de victimes, hommes, femmes, enfants, et ils le sont collectivement. Peut-être inconsciemment, mais ils le sont collectivement. Donc, un des objets peut-être de rencontres comme celle-ci, c'est de dire, bon, maintenant on va s'y mettre, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? L'analyse demande à être enrichie continuellement par des penseurs qui pensent, des théoriciens qui théorisent, et des journalistes qui nous rapportent des événements. Mais si on est conséquent avec le principe que le pouvoir appartient au peuple, il faut que des gens qui ne sont rien, comme moi, puissent proposer un certain nombre de processus pour que ça change. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on se pose la question. Vous avez fort justement rappelé que ça remonte au Club de Rome et puis à René Dumont, etc. Bon, c'est pas d'aujourd'hui qu'on dénonce tout ça. Et on commence à se fatiguer parce qu'on ne voit rien avancer. Bon. Alors, je suggère très modestement un processus, et puis j'aimerais donc avoir votre avis sur ce processus. Vous avez parlé d'analyse de besoin. Bon. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant entré dans un petit peu le langage administratif, hein, dans des procédures qui sont assez officielles. On a la RT 2005, dont on parle beaucoup à d'autres endroits, et ses suites qui seront plus exigeantes. Ça veut dire qu'on ne pourra plus construire de logements qui seront énergivores, bon, à terme. On a l'empreinte écolo. Bon, on sait qu'on consomme déjà 3 fois, 4 fois notre planète. Ça, c'est aussi une limite objective. C'est-à-dire, on voit bien qu'on ne peut pas continuer, donc qu'il y a des règlements qui vont venir s'imposer pour limiter cette surconsommation. Et ça, c'est admis. Et puis, on arrive au RMA. C'est du même ordre. Si on arrive à placer le revenu maximum autorisé dans ce type de limite de type, allez, on va dire administrative, on aura dans les esprits déjà accompli un grand pas, même s'ils ne le font pas, parce qu'ils tricheront, évidemment. Mais il faut pouvoir faire en sorte que l'idée soit dans les esprits, comme la RT 2005, comme voilà. Ça, c'est peut-être une première étape, je suggère. Une deuxième étape, c'est de s'attaquer au pouvoir, parce que le fait qu'on ait un modèle de surconsommation qui soit par voie hiérarchique, imité de plus en plus mal et de plus en plus de manière obèse, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que ces gens détiennent un pouvoir, et qui plus est, un pouvoir illégitime, puisque personne ne les a élus à exercer ce pouvoir, et qu'à aucun moment ils ne doivent en rendre de compte. Donc comment est-ce qu'on va les déposséder de ce pouvoir pour le rendre à ceux qui l'ont légitimement? On parlait hier du Grenelle de l'environnement et de son rapport à la démocratie. C'est une contestation de notre démocratie faussée par les lobbies, le fait qu'on ait eu besoin de faire ce Grenelle de l'environnement pour rendre la parole à des gens qui n'auraient jamais dû la perdre. Bon. Donc, par rapport au phénomène de richesse et de captation de pouvoir, il faut pouvoir mettre en place le même type de procédure populaire. Et malheureusement, ça n'en prend pas le bon sens. Si on prend juste trois illustrations, Rich, ils ont réussi avec leur lobby à limiter à 3000 molécules ce qui va être examiné. Ça, c'est la puissance des lobbies. Je pense que vous l'avez suffisamment développé. Le monopole des semences. Et le fait que les gens qui ont le monopole des semences se mettent en position d'interdire un certain nombre de semences libres, qui l'ont toujours été depuis que les paysans existent, se mettent en position d'obliger les gens à accepter des OGM dont personne ne veut. Bon, ça, c'est quand même l'exercice d'un pouvoir terrifiant, bon. Et illégitime. Le commerce hystérique par conteneur à travers le globe entier, où on transporte tout et n'importe quoi sur des bateaux, dont personne n'a demandé, on les découvre, et on les découvre grandissant. Personne n'a jamais donné son avis, il n'y a jamais eu de débat sur ce commerce hystérique. Alors, deuxième étape, comme on sait que les révolutions, c'est des catastrophes, il faut évidemment imaginer autre chose. Alors, il y a Pierre Rabhi qui nous propose la révolution non violente, il y a Patrick Vivray qui nous propose des alternatives sol, et d'autres qui ont chacun leur petite bulle d'alternative. La question qui se pose maintenant, c'est ils ne nous laisseront pas mettre en place ces alternatives. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il me semble que c'est là le nœud de la politique et de la gauche, etc. Comment est-ce que nos partis, dans l'état de délabrement où ils sont, nos syndicats dans l'état de délabrement où ils sont, nous-mêmes dans l'état de désespérance où on est, comment on va faire pour protéger les alternatives, celles de Pierre Rabhi, celles de Sol, etc. Comment on va faire pour les protéger? Parce qu'il va falloir se battre. Ils ne laisseront pas faire. Quand ils ont décidé le nucléaire, sans rien demander à personne, ils nous ont lâché les chiens. Et on a été cassés. Donc il faut s'attendre à être cassé sur ces alternatives, en sachant que pourtant c'est la seule voie. Dites-nous quelle est votre avis là-dessus.
Avant de dire... Avant de passer la parole à Hervé qui va vous répondre, juste un petit retour un peu, à écouter un peu les autres. Je crois que le partage de la citoyenneté, c'est aussi le respect de l'altérité, et on va essayer d'écouter les uns les autres. Moi, un petit élément de réponse, mais sous forme d'humour, puisqu'il faut toujours de l'humour. Hein. Je crois que, commençons à ne pas dire que l'on est rien. Ne commencez pas votre discours en disant que vous n'êtes rien. Vous êtes tout. Vous êtes un univers, nous sommes tous un univers. Donc si on commence à se dévaloriser nous-mêmes et à dévaloriser notre discours, déjà on l'affaiblit. Vous êtes tout. Ne commencez plus votre discours en disant vous n'êtes rien, parce que vous êtes beaucoup.
Non, c'est parce que j'ai observé hier que des gens se présentaient en disant j'ai été directeur de cabinet, de machin.
Peu importe. Directeur de cabinet, ça veut dire quoi? Mettre le papier laissé?
votre parole par désespérance. Là, on est combien là? On n'est pas désespéré. On est là pour. Vous voyez? Non, donc on sort.
Je pense c'est ce que tu viens de dire.
On n'est pas désespéré. On
c'est l'argument, c'est tout.
Non. Arrêtons. Je vais vous dire, moi, pourquoi je ne suis pas désespéré? Parce que là, ce. Je ne sais quel mécanisme biologique mental m'a poussé à faire ce livre, et donc du coup je me retrouve à parler et surtout à échanger dans 15 points de France ou 30, et je découvre partout ce que je ne savais pas, des gens, des réseaux qui se battent, qui font des choses, qui inventent, etc., etc. Ce que vous avez d'ailleurs décrit, toutes ces alternatives, et elles sont là. Alors c'est ce que je ne sais pas, leur donner la parole, c'est reparti pour 3/4 d'heure.
Moi-même je vais essayer d'être court parce que c'est ton idée des créatifs culturels, etc. Bon, peu importe. Vous savez, cette idée que il y a en fait plein de choses qui se font et les gens ne le savent pas. Et donc là, c'est comment est-ce qu'on transforme cette série de bulles en quelque chose collectif, qui fasse que celui qui se bagarre pour l'agriculture bio, il se penche comme étant dans la même bagarre que celui qui est dans Wikipédia, que l'autre qui est dans la lutte contre les déchets nucléaires, et le quatrième qui dit, bagarrons sur la monnaie, etc. Bon. Comment est-ce qu'on arrive à dire à tous ces gens, mettons-nous ensemble? Et c'est là que je reviens à l'aspect psychologique. C'est que, il me semble que, ce qu'a réussi le capitalisme depuis 20 ans, notamment depuis 20 ans, c'est pas seulement ce que j'ai décrit, que les économistes analysent en termes statistiques, c'est qu'ils nous ont aussi convaincus que nous étions des individus ou des petits groupes. Et que si je vais réussir quelque chose, c'est parce que moi, j'ai beaucoup travaillé, etc. Et puis, si toi, tu réussis pas, c'est parce que t'es pas bien. Et si tu te retrouves dans la rue, c'est parce que t'es... mais si toi, t'es milliardaire, c'est parce que... Et, vous voyez, ils nous ont. Et si vous regardez, vous analysez précisément les messages publicitaires et tout ça, et la publicité, c'est le langage par lequel l'idéologie passe le mieux. Ils nous disent ça en permanence. Tu. Je vais juste prendre un exemple. C'est le petit livret d'EDF sur, je sais pas comment ils ont appelé ça, les économies d'énergie. Et alors, regardez-le attentivement, ils le font payer 2 euros. Ou encore, après tout, c'est normal. Non, bon, on s'en fout. Mais je veux dire, j'achète, et je dis, ouais. Et puis, un truc qui va pas. Ça, il dit, sans arrêt, et reprenez-le, et regardez, ta planète, comment tu vas sauver ta planète? Il parle, il pisse tu, hein. Vous voyez à quoi je veux dire? Mais c'est pas moi qui vais sauver la planète. C'est pas toi, c'est nous tous ensemble. Oui, alors, donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut, alors d'abord on n'est plus dans la désespérance, mais toutes ces alternatives qui sont là, effectivement, là, la machine de pouvoir va se remettre en ordre de marche, et d'autant plus facilement qu'ils vont faire croire au bon peuple qu'avec le Grenelle de l'environnement, là, la révolution écologique est défaite. Hein, donc, ils vont chercher à casser les alternatives. Donc ce qu'il faut, c'est quand même que tous ceux qui sommes dans des alternatives, on sache, d'une manière ou d'une autre, à inventer, je ne sais pas comment on va faire, mais à refaire politique ensemble. Et à dire, pour reprendre cet exemple, celui qui se bagarre à Bure sur les déchets nucléaires, il est dans la même bagarre que celui qui est sur Wikipédia ou que celui qui est dans Sol. Et comment est-ce qu'on fait sens ensemble? Et c'est là qu'une fois de plus, le politique... Et la représentation politique est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas désespéré, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que malgré tout, même si on est en 2007, le balancier, il a commencé à repartir dans l'autre sens. Vous allez à la fête foraine et vous allez dans ce truc-là qui fait peur. Et le capitalisme ou le néolibéralisme, moi je dis maintenant capitalisme, soyons clairs, capitalisme, il a été en haut là. Et puis en 99, il y a eu un coup d'arrêt. Alors on est encore dans la phase de descente où c'est lent. Vous savez, vous voyez un peu je fais allusion dans la fête foraine. On monte, on a super peur. Hop. Et puis à partir de 99, ça a commencé à changer. Il y a des gens qui ont dit non. Un autre monde est possible. Et puis on est encore dans cette phase, parce que ça va lentement, mais il va falloir aller vite, parce que de toute façon, les échéances sont là. On est encore dans cette phase où ça commence à redescendre. On se dit, merde, ça bouge pas.
Des fois, il y a des boulons qui sortent et on s'écrase. Hein.
Alors voilà. Mais vous avez raison. Moi, pour moi, le boulon qui saute, c'est... Bon, enfin, là, on n'a pas le temps, je vais rendre la parole. Mais non, mais on peut être dans la situation où ça s'accélère dans le bon sens et où toutes ces alternatives commencent à faire corps. Mais là, il nous faut l'instance politique. Une fois plus.
Toujours sur le même sujet, ne crois-tu pas que toutes ces alternatives qui se sont un peu isolées, finalement, sur le territoire ou sur les idées, ont développé finalement des systèmes de pensée, on le voit dans les représentations politiques, si on prend par exemple les Verts ou la gauche actuelle, des systèmes de pensée qui les ont isolés les uns des autres. C'est-à-dire chacun a sa vérité, chacun a son système de représentation culturelle et politique, et plus personne n'arrive dans le même courant de pensée à essayer de se mettre à la place de l'autre et à partager une expérience. Alors partager une expérience, c'est difficile, parce que l'expérience, c'est celui qui la vit, qui la conçoit, hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette problématique où finalement l'espace politique a complètement explosé et chacun reste sur son compte à soi et n'arrive plus à partager avec l'autre un regard ?
Je peux dire que oui. Bon. Je suis d'accord, oui.
Donc, c'est très bien. Monsieur avait la parole là-bas au fond, parlez fort avec une voix de ténor.
Je voudrais revenir sur un point qui
était évoqué au début. Plus fort, plus fort.
Alors attendez, avant qu'il parle plus fort, on va essayer de faire un peu de silence.
Le micro.
Oui, mais j'ai peur de mettre. Il pas vous, ça, il peut venir. Approchez-vous, monsieur. On ne va pas prolonger. Approchez-vous.
Attention.
Eh oui, je sais. Attention. Venez là, venez là. Approchez-vous. Oui, approchez-vous.
Oui, oui, j'ai peur de défendre.
Je voulais prolonger l'idée des alternatives, qu'est-ce que l'on peut faire, etc. Et aussi de ce que tu as dit tout à l'heure, du rapport au pouvoir, de changer le rapport au pouvoir. Et je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on vit dans une société de consommation, tout est fait justement pour la consommation, le toujours plus, qui devient modèle. Et voilà. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que justement, si on sait utiliser son pouvoir d'achat, qui est un réel pouvoir, aussi minime soit-il, du coup, un peu comme un judoka, on peut utiliser la force, entre guillemets, de l'adversaire. D'accord ? Autrement dit, il faudrait qu'on puisse, je dirais qu'on puisse, parce que c'est, pour l'instant, ce n'est pas le cas, opérer un choix éclairé quand on achète d'une manière très prosaïque, et ça passe par l'accès à l'information. Et l'information qui concerne la vie de tous les jours, et pas seulement l'information politique de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Et ce droit à l'information nous est refusé globalement parce que l'information, c'est de la com, et la com a à voir beaucoup plus avec la pub, qui est faite pour conditionner le consommateur, pour préserver des intérêts bien en place, et qui n'ont pas intérêt à ce que l'on change d'habitude, notamment en fonction de ce fameux développement durable, et le relève quand même... On a un tout petit peu parlé à partir de l'environnement. Donc, ce que je voudrais, c'est que t'entendre parler, réfléchir sur les relations entre le pouvoir, le vrai pouvoir économique, donc l'argent, les médias et l'accès à l'information dû quand même au consommateur qui pourrait donner un consommateur acteur, hein, c'est-à-dire utiliser son pouvoir d'achat pour remettre en cause les paradigmes qui nous mènent dans le mur et qui continuent de nous mener dans le mur. Parce que quand on parle d'éléments durables, on parle d'environnement, de social, mais jamais de remettre en cause les paradigmes économiques qui continuent de nous mener dans le mur.
Et
vers
du boycott.
Moi, j'ai fait ça.
Bah, in fine, c'est le boycott qui est... Ouais. C'est une arme qu'on ne peut pas de mener d'une manière ciblée, si je puis dire.
D'abord, par rapport à la consommation, je ne sais plus si j'ai été assez clair dans ce que j'ai dit, mais il y a un enjeu de baisse de la consommation matérielle. Donc moi, avant de savoir s'il faut acheter le produit vert pâle, bleu, rose, etc., comment moins consommer, comment moins acheter d'objets matériels? Ça, c'est la priorité derrière laquelle doit seulement venir l'information sur la qualité des produits. Un peu de la même manière que pour les énergies renouvelables. Avant de parler d'énergie renouvelable, il faut d'abord parler économie d'énergie. Et après, on parle d'énergie renouvelable. Le système actuel tend à inverser l'ordre des choses et à nous faire croire que, ah ben, on va aller vers des produits verts et si on achète bien, ça sera mieux, etc. Non, le problème, c'est qu'il nous faut consommer moins. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, alors ça renvoie à un débat qu'il y a eu, ceux qui ont été hier à la question sur les pollutions électromagnétiques avec Michel Rivasi, et il y a quelqu'un qui a posé une très bonne question, après ton exposé, Michel, où la personne a dit, mais est-ce que vous nous parlez de comment se protéger, quelles sont nos règles et les droits à l'information qui sont nécessaires en matière de, dont l'électromagnétique de téléphone, etc. Et la personne a dit, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord sortir du système et se poser la question de l'utilité du téléphone? Et là, il faut jouer sur les deux choses en même temps. Hein, et c'est, on en a reparlé avec Michel, mais il faut effectivement dire ce qu'a dit cette dame, ou ce qu'a dit un autre monsieur à propos des fours à micro-ondes, et il avait raison. Moi, je n'ai pas de four à micro-ondes, et puis, est-ce qu'on peut vivre ou non sans four à micro-ondes? Et ce qui n'empêche pas quand même qu'il y a toujours des fours à micro-ondes ou des téléphones portables qui resteront. Et là, c'est absolument essentiel qu'il y ait le travail que fait Michel Rivasi, puis que font d'autres associations et plein d'autres gens dans d'autres domaines. Mais voilà ma réaction par rapport à ce que vous venez de dire, c'est, ou ce que tu viens de dire, c'est bien savoir par où on commence. Et par où on commence, c'est réduire la consommation d'énergie, réduire la consommation matérielle, et pour ceux qui restent, chercher en revanche une meilleure consommation. Dernier point par rapport à l'action, par rapport au pouvoir médiatique, je n'apprendrai rien à personne que les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la presse, et notamment la télévision qui reste le média le plus puissant parce qu'il persuade la majorité des gens, dépend totalement de la publicité. Donc là, il y a aussi une bagarre. Hein, je suis au monde, je peux vous dire que c'est une bagarre, mais on se bagarre encore, mais qu'effectivement, il faut soutenir absolument, notamment tous les journaux et tous les médias qui sont en dehors de la publicité, parce que leur voix est libre par rapport à cet enjeu de consommation matérielle.
Alors, attendez, là, il y avait deux demandes de parole, et ensuite, vous... Et si, une dame, excusez-moi, je ne vous parle pas. Alors, une dame, évidemment. Merci de la...
Bonsoir, c'était simplement pour... vous avez parlé de l'oligarchie et de psychisme. C'était simplement pour faire deux propositions. Alors, une première proposition un peu drôle, si vous voulez, ça serait de proposer le conseil des ministres prochain sur l'île déserte. Donc, pendant 8 jours, éventuellement, ils pourraient au moins apprendre ce que c'est que la nature et... voilà.
Bien sûr, oui. Ils vont en avion.
Deuxième chose un peu plus sérieuse, en fait, par exemple, en ce qui concerne le psychisme, il faut savoir que beaucoup de gens consomment de l'aspartame, il y a beaucoup d'aspartame comme en coca, etc. C'est un sucre qui est très toxique en ce qui concerne le corps, d'abord parce que ça amène toujours à consommer du sucre, et en fait, ça agit donc sur le psychisme des individus. Et quel est le type qui touche toutes les royalties de l'aspartame? C'est Donald Rumsfeld. Donc en fait, si on veut agir sur les oligarchies, il ne faut pas leur donner notre pouvoir. Et on a le pouvoir de refuser tous les produits qui contiennent l'aspartame. Et c'est vraiment très important parce que vous en trouvez dans beaucoup, beaucoup de produits industriels. Alors ça, c'est une mesure concrète. Une mesure concrète qui peut permettre à tous les gens qui sont du Grenelle de l'environnement de transmettre cette information et puis d'agir. Parce qu'on parle toujours que le pouvoir il est aux autres, le pouvoir il est en nous. Et on a aussi place une information, si vous voulez, pour permettre à des gens de ne pas donner le pouvoir à ceux qui nous détruisent et qui détruisent la planète.
Merci, au revoir. On va rendre moins angoissé dans le Donald Rumsfeld, en le rendant moins riche.
Un mot rapidement, c'est qu'en fait, on peut se passer du sucre. Par exemple, et ça c'est vraiment des habitudes. C'est par exemple le café, excusez-moi.
C'est pas du sucre, c'est des faux sucres.
Non, mais c'est par rapport à ce que vous disiez sur l'addiction à l'aspartame qui attire le sucre.
Et donc, si on peut
passer. C'est parce que ce sucre-là donne une addiction.
Non, mais moi je suis convaincu que l'aspartame pose problème, mais on peut se passer dessus. C'est-à-dire que les gens qui mangent trop de sucre peuvent aller vers, par exemple, prendre son café sans sucre. Mais là, c'est une habitude à prendre, c'est là aussi une désintoxication à faire.
Une autre, donc, ici, et ensuite, toi, Michel.
Oui, bonjour. Jean-Louis Millet. Moi, je suis un peu admiratif par rapport à tout ce que vous avez dit, mais par contre, je suis paysan. J'aime bien les solutions concrètes, j'aime bien que les gens agissent. Or là, nous, on peut tous agir. J'ai organisé depuis la 9e année cette année, en 2007, un salon sur les économies d'énergie. Pour moi, c'était le premier thème, le thème le plus important. Et les énergies renouvelables. Et puis après, on a rajouté l'éco-construction. On peut tous demain se passer dans les grandes surfaces. On peut tous demain choisir ce qu'on va acheter. On peut tous demain, et en particulier ceux qui sont contre le nucléaire, aujourd'hui, d'accord, si tu veux, ne plus être raccordés à EDF. On a des choix à faire. Et c'est des actions qui peuvent porter beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui, qui dans la salle n'a pas de téléphone portable? On n'est pas nombreux à avoir un téléphone portable. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement devenu d'habitude et c'est indispensable. Et je suis sûr que même Michel Rivasi, qui est plus ou moins contre, a un portable. Hein, si ce n'est pas deux. Voilà. Et là, qu'il y en a deux ou trois. Voilà. Et donc, on est dans la situation où on doit choisir. On peut vivre. Moi, je vis depuis 12 ans dans un chalet que j'ai construit. Je m'étais à 4 panneaux solaires. Et je n'ai pas de facture d'eau, je n'ai pas de facture d'électricité, je n'ai pas un bonheur de solaire, etc. On peut tous changer nos modes de vie. C'est sûr que tout ce que tu as dit, c'est extraordinaire. Mais il faut le faire. Il faut que ce soit nous qui le fassions. Dès demain, dès aujourd'hui, c'est comme le dit Marie-Noël. Hein? Parce que ça aura un impact. Et après, on fait les actions qu'on a envie de faire, comme tu as décrit ou autre. Mais si on ne commence pas par agir nous-mêmes, eh bien, je suis désolé, je pense qu'il y aura beaucoup de discours et pas beaucoup d'actes.
Simplement pour mon information, qui n'a pas la télévision?
Oh, joli.
Joli, c'est bien. Oui, moi aussi. Alors lui, il est formidable, il me donne deux micros. Ben, deux portables, deux micros. Bon, attendez, madame, vous rajoutez quelque chose dans le même sens?
Oui, juste par rapport à la cabane, à l'académisation, et puis encore un papier aujourd'hui, ils font la chasse aux cabanes. Donc, ils veulent essayer d'être complètement indépendants et d'avoir effectivement des structures. Maintenant, ils mettent des lois en place pour chasser ce genre de
construction.
Donc, ça reste très, très difficile à mettre en place.
Et si je veux, moi, vous dire autre chose, est-ce que ce n'est pas un discours un peu culpabilisant?
Oui.
Oui. Allez, mais c'est... Non, on va laisser répondre.
Écoute, moi j'ai un petit peu un problème par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on revient à la recherche de la solution individuelle. Et...
Non. On va laisser finir. Attends, Jean-Louis.
37 ans, je fais de l'agriculture biologique, et 37 ans, je fais de l'écologie, et j'agis sans arrêt pour les autres.
Je veux dire par là que, par exemple, ce que tu décris... Moi, je ne sais pas comment je peux le faire dans mon quartier de ville. Et... Alors, attends.
Je ne dis pas que je suis en... On va laisser répondre. Non, on va essayer, tout le monde s'est écouté jusqu'à maintenant, et puis on va essayer d'écouter.
Et on peut traduire ce que tu as dit. Chacun dans son truc. Par exemple, en revanche, en ville, on peut se passer de voiture et faire du vélo. On peut ne pas avoir de micro-ondes, ne pas avoir de télévision et limiter sa consommation matérielle, etc. Donc, on peut décliner tout ça. Ce que je veux dire, j'ai quand même cette inquiétude parce que ça revient souvent, et c'est que la solution, la recherche d'une cohérence individuelle avec ce qu'on croit, ne doit pas mener, et c'est à l'inverse de la question que tu poses sur la culpabilisation, mais par une sorte de déculpabilisation totale. C'est-à-dire, je cultive mon jardin, je ne le dis pas pour toi, mais parce que ça revient souvent dans des débats, par exemple sur les cabanes, etc. Je cultive bien mon jardin, et puis que le vaste monde sur lequel je ne peux rien, voilà. Je suis sûr que, par exemple, toi, tu es engagé dans le social, tu fais une foire, etc. Mais souvent, je rencontre des gens qui disent « Ah, ben, je fais ceci, je fais cela, donc tout est bien. » Et non, il faut à la fois qu'on soit dans cette cohérence individuelle, parce que, en revanche, il ne faut pas dire « Ah, ben, c'est la solution est politique, donc on va attendre que ça change au niveau politique, puis moi, je m'engage politique et puis on vit n'importe comment. » Effectivement, il faut être cohérent individuel autant que c'est possible aussi, parce qu'on vit dans une société et puis on est, nous aussi, sujet à ce bain de publicité, de machin, de trucs. Et puis on est en relation avec des gens qui, eux, sont impliqués, non pas notre niveau de... Enfin, je ne dis pas de manière péjorative, mais ne sont pas arrivés à notre cheminement intellectuel ou sont à un autre endroit ou pensent à autre chose. Donc il faut interagir avec eux aussi pour convaincre, etc. Donc ce que je veux dire, ça ne doit pas s'abstraire. Une fois de plus, je reviens à la question du politique, mais j'ai un peu mal à l'aise parce que, un, je n'ai pas la solution du politique, parce que par définition, la politique, ça se fait ensemble. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ces solutions individuelles qui sont indispensables qu'on les fasse passer, mais s'articulent aussi à un discours collectif? Et en ayant aussi une analyse collective, et là je vais prendre l'exemple de l'éco-construction, moi qui me met dans un profond malaise. Parce que si on parle et que chacun fait sa petite cabane, alors qu'on ne voit pas qu'on est dans un problème écologique majeur, à l'heure actuelle, et qui est écologico-social, qui est l'étalement urbain généralisé, qui se traduit par un impact environnemental évident, parce que il faut des voies d'accès pour aller là, donc on prend sa voiture, même si c'est plus valeureux dans ton usage en vélo, etc. Mais enfin, ça veut dire plus de voitures. Ça. Et ça a évidemment un impact sur la biodiversité, l'étalement urbain. Et par ailleurs, c'est le symptôme aussi, l'acceptation de la ségrégation urbaine. C'est-à-dire, en gros, les riches et les oligarques en centre-ville, les classes moyennes ou un peu plus prospères aux alentours, et puis on trouve la solution loin. Donc l'éco-construction, c'est évidemment intéressant, mais attention à ne pas nous faire prendre au piège de ne plus se poser la question de la ville et de la ville comme milieu social et comme lieu où se fait la société.
Michel Rivasi.
Oui. Moi, je voudrais revenir sur le plan politique. Parce que il y a des solutions individuelles, comme ça a été dit, mais si on se dit en démocratie, on a une démocratie représentative. Et c'est vrai que je trouve que là, on a un blocage avec le système politique. Vous voyez, moi, j'étais députée à part en TPS, et puis après, je suis allée au Vert. Et en tant que députée, moi, j'étais très surprise par le côté sidération dont Patrick Vivoré parle. C'est-à-dire que c'est des gens qui fonctionnent en un type de modèle. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de système alternatif au sein, si vous voulez, de l'Assemblée nationale. Quand il y a des audits, par exemple, sur différents sujets, ils demandent aux lobbies de venir. Et c'était récemment que maintenant on a demandé aux ONG de venir. Moi-même, j'avais une difficulté forte sur le nucléaire d'inviter Greenpeace. Ça a été la première fois que Greenpeace rentrait dans l'Assemblée nationale parce que j'avais organisé un colloque et j'estimais que c'était moitié-moitié. Bon. Donc il faut bien vous mettre dans la tête qu'on a un système. Alors tu parles d'oligarchie, moi je parle aussi d'oligarchie politique, qui s'auto-entretient. Et les gens qui font de la politique, regardez d'où ils viennent. Bon. Après, on a un deuxième problème, c'est que notre gauche, comme tu l'as très bien dit, notre gauche, elle est social-démocrate. Elle ne revient plus sur les inégalités. Elle les accepte. On fait un peu plus du social qu'on est de gauche. Bon. Alors c'est pour ça que je suis allée au Vert, parce que je trouve que l'écologie politique, ça correspond plus à un projet global où on intègre à la fois les problèmes d'environnement, mais les problèmes sociaux. Et moi, je trouve que le Grenelle d'environnement, méfiez-vous. Parce que quand j'ai dit hier, les Grenelles commencent aujourd'hui, les ONG ont énormément travaillé et ont obtenu ce qu'ils n'attendaient même pas au départ, parce que connaissant nos UMP de l'époque, mais on n'a pas mis du social, on n'a pas réfléchi sur l'eau, on n'a pas réfléchi sur l'énergie, on n'a pas réfléchi sur quelle est la propriété, quel est le bien public. Bon. Donc, d'un point de vue politique, il faut absolument que on essaie, nous, d'ouvrir au niveau des alternatives. Alors même concrètement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, j'ai fait la campagne législative, quand vous dites aux gens, il faut absolument que vous preniez en charge, hein, il faut que vous soyez autonome. Mais les gens, attendez, vu l'éducation qu'ils ont reçue, ils sont, comme disait Boris Cyrulnik, ils sont en pensée paresseuse. Ils préfèrent qu'il y ait un chef qui soit là, qui dirige, et lorsque vous leur dites on est pour les comités de quartier, on est pour un budget participatif, il faut reprendre l'eau privée à Veolia, alors on peut en parler encore d'ailleurs, etc., etc., ils disent ouh là là, c'est compliqué, nous on a un modèle vachement simple, hein. On est devant notre télé, on consomme, on sait que c'est tout est pourri, mais il y a une espèce d'acceptabilité. Donc, si on veut changer, parce que moi je suis tout à fait dans la problématique, je me dis comment faire. D'abord, moi, je crois beaucoup aux alternatives au contre-pouvoir. Mais on a un problème, c'est l'ego. Quand on est en politique, il y a la relation au pouvoir. Et il y a à revoir l'organisation collective pour pas qu'il y ait quelqu'un qui se prenne le pouvoir. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas déléguer toujours aux autres. Donc vous voyez, ça, c'est une autre formation, ça. Alors, on me dit, il y a des gens qui sont capables de dire, ben, je vais construire ma maison, etc. Très bien. Mais entre nous, il faut réfléchir, 5 minutes. Il y aura 80% de gens qui vivent dans les villes. Donc, il y a quand même une conception collective à avoir. Et tout à l'heure, on a parlé du PADUC en Corse. Mais quand vous voyez ce qui se passe entre les élus qu'il y a, entre les intérêts financiers qu'il y a, il y a intérêt à s'organiser collectivement. Et si les partis politiques ne répondent plus,
eh bien, il va falloir créer quelque chose d'autre. Sachant quand même, et je vous en garde, quand aux élections, on avait un espoir qu'il y ait un seul candidat au niveau, je dirais, de la gauche, eh bien, qu'est-ce qui est revenu? C'est les partis politiques. Donc, il y a un boulot énorme à faire. Hein, et il faut un peu que nos neurones soient enrichis, justement, d'alternatifs. Et puis, on y arrivera, parce qu'il faut y aller vite, mais il faut que les gens se sentent responsables et impliqués. Parce que si on a des robots et des assistés, on n'y arrivera jamais. Voilà.
Donc une révolution psychologique et une révolution sur nous. Là-bas, je ne sais pas si on y arrivera ou si vous avez la voix assez forte. Approchez-vous.
Merci. Oui.
Attendez, j'ai tremble de quelqu'un avec le film.
Tout à l'heure, tu parlais d'ennemis qui vont devenir des adversaires. Et puis, Hervé, tu parles des oligarques qui ont les clés du pouvoir, etc. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le coup du Vespa. Moi, il y a presque 20 ans...
Tu es notre Michel Drucker, tu remercies tout le monde.
Je cite des trucs qui m'ont donné envie de répondre, donc je fais une réponse.
Il ne peut pas savoir, il ne le regarde jamais, lui.
Oui, il y a presque 20 ans, je me suis pris une grosse claque dans la tête après avoir été au Vietnam et puis juste après à Hong Kong. Au Vietnam, les gens, ils étaient globalement souriants alors qu'ils étaient vraiment très pauvres. Ils sortaient du communisme dur, hein, méthode dure, version dure. Et alors, donc ils étaient vraiment très pauvres. Il y avait des fois des gens qui traînaient par terre avec des moignons sur le marché. Et puis après, juste après à Hong Kong, les gens, ils faisaient la gueule dans la rue. Je me disais, mais c'est pas possible, il y a un gros bug là-bas, on m'a entretenu dans un mensonge, c'est que les biens matériels, ça donnait le bonheur, etc. Etc. Donc, plutôt que de concentrer notre énergie contre des oligarques qui donneraient une image néfaste pour l'ensemble, moi, ce qui m'inspire beaucoup plus confiance, c'est... de les reconnaître comme des toxicos, comme Patrick Vivrain nous a invités à le faire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a plutôt, pas de la pitié, mais on est plutôt désolé pour eux, quoi. Et à ce moment-là, je fais un rêve, hein, c'est certainement une utopie, mais je rêve qu'un jour, il y ait un des enfants de Lagardère qui rencontre un des enfants de Pierre Rabhi et qui constate qu'il est plus heureux, tout simplement. Donc je suis convaincu que ça sera plus par le renversement, quoi, décroissance, qui devienne plutôt le sous-titre, là, le journal de la joie de vivre, là, que ça devienne effectivement le titre, le journal de la joie de vivre. Ouais. Et à partir de là, je crois que ça fera effectivement tache d'huile et ça donnera envie à d'autres. Voilà.
D'autres demandes d'intervention? Oui.
Bonsoir. Oui, j'ai entendu des sujets très intéressants pour faire avancer le chemin public. Et puis j'ai entendu quand même, finalement, le mot que je retiens, c'est désir. C'est-à-dire que en fait, là, c'est la deuxième jambe qu'on a perdue avec Descartes. Qui nous a passé dans le domaine de la raison. Et aujourd'hui, même s'il y a une augmentation de la prise de conscience, disons une augmentation du niveau de conscience, les gens ne croient pas parce qu'ils savent. Et donc, le désir devient central. Et le désir, Patrick l'a évoqué, c'est presque spiritualité. C'est cette deuxième jambe qu'on a perdue. Et là, je me demande, c'est ma question, est-ce qu'on va pouvoir faire l'économie d'une spiritualité nouvelle, ou est-ce qu'il faut la faire avant que les autres la fassent?
Bonne chance, Hervé.
Il n'y a pas de souci, parce que... La question revient assez souvent parce que c'est une préoccupation de fond. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se dit on va consommer moins, on va moins travailler, une des façons d'occuper le temps, c'est de discuter. Et on peut discuter, les discussions les plus intéressantes, c'est qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que l'amour, quel est le sens de l'existence humaine, Dieu existe-t-il, qu'est-ce que la matière, etc. Et dans... il se trouve que j'emploie le terme de baisse de la consommation matérielle parce que je veux signifier clairement que et c'est le point qui me sépare un petit peu avec les amis de la décroissance, c'est que, pour être précis, la baisse de la consommation matérielle, voilà, c'est objectif, c'est concret, on sait de quoi on parle. Mais après, il y a une notion d'efficacité, et je vais vous expliquer. Le temps qui nous est imparti pour corriger, lancer notre train sur une autre voie, le mettre sur un autre aiguillage est réellement, je ne suis pas catastrophiste, mais est court. Et il y a une façon excellente qu'ont toujours eu les hommes, les humains, de se disputer, c'était les querelles de religion. Et donc, on est dans une phase où il faut apprendre à surmonter les différences, ou en tout cas à s'entendre, et à trouver les bons enjeux. Et je veux dire par là, je ne sais pas si je suis clair, mais je crains trop que si on a réintroduit trop clairement la question que vous êtes en train de poser, mais qui est essentielle, on ait des réactions extrêmement carrées de gens qui disent « Ouh là là, mais... » et qu'on revienne dans une guerre de religion, ou dans une opposition athée, etc., forte. Et je sais la capacité destructrice de cette question pour penser que il nous faut faire l'économie de cette discussion pour l'instant. Parce que l'urgence, c'est de trouver les moyens de se mettre d'accord ensemble. Et moi, je ne suis jamais plus content que quand je discute avec des communistes, avec des gens d'attaque, avec des chrétiens, avec des étudiants en Sciences Po, avec des patrons qui n'ont pas encore arrivé, j'aimerais bien, et je les travaille. Allez, oh, c'est de l'économie. Vous voyez, arriver, et là aussi, philosophiquement, il faut qu'on ait et là, ce souci, parce que la question que vous posez est tout à fait importante et au cœur, quand on dit être ou avoir, etc., il y a aussi ça, qu'est-ce que ça signifie d'être après tout. Et si ça renvoie pas à bon, des questions philosophiques, on sait tout de suite ce qu'elles entraînent. Mais on sait aussi dans notre histoire politique, depuis 200 ans, et particulièrement dans un pays comme la France, à quel point ça peut être une question, et au sein de la gauche, une question cruciale. Et donc je ne veux pas, enfin, voilà, je vous réponds de moi à vous, précisément, parce que cherchons l'efficacité. Et donc, posons-nous ces questions, mais en ayant à l'esprit qu'il faut aussi qu'on soit d'accord avec des gens qui seraient d'une tradition philosophique matérialiste. Vous comprenez bien, là, parce que je suis en train de vous dire que je n'en suis pas forcément dans ce film. Mais l'essentiel, c'est qu'on se retrouve ensemble. Et d'une certaine manière, je crois que c'est Aragon qui disait cette très jolie parole vers 45, c'est ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Et on est dans une situation où il faut que ceux qui croient au ciel et que ceux qui n'y croient pas se retrouvent pour travailler ensemble par rapport aux urgences qu'on a tous définies là, dans cette discussion.
Au-delà du problème de spiritualité, on voit bien que les dimensions les plus belles sont économiques, politiques, sociales, mais aussi psychologiques. Donc il va bien falloir l'aborder, ce problème psychologique. Il faut y aller aussi. On ne peut pas le laisser de côté, puisqu'au bout du compte, les gens ne sont pas d'accord. Si on ne touche pas le désir, si on ne touche pas le reste.
Ah, ça, oui. On a le désir, on s'en fout. Ah, oui, il n'y a pas de souci. Je parlais de l'autre sens plus spiritualiste que vous évoquiez, si j'avais bien compris votre question.
Régis devrait parler de spiritualité dans ce sens que je me demande même si, en 93, on avait créé une spiritualité, il y avait le mois des semailles, le mois des... Enfin, on avait inventé, disons, un nouveau religieux qui transformait les gens.
Les taoïstes disent que que le rite est la dégénérescence de la spiritualité. Alors créer un mois des semailles, un mois des trucs, c'est la dégénérescence de la spiritualité.
Mais il y a des grandes traditions de spiritualité athée et agnostique.
Oui. On va donner la parole à monsieur qui a demandé la parole, et ensuite ici. Et je pense qu'on va bientôt conclure le débat, parce que je vois que la faim, l'hypoglycémie, malgré l'aspartame, commence à faire des ravages dans les rangs.
Mais c'est juste un complément d'argument à ce que disait Hervé Kempf tout à l'heure, au moment où s'opposaient les solutions individuelles et la nécessité de regroupement collectif et d'action collective, et aussi pour montrer que je ne suis pas si désespéré que j'en ai.
Va sourire.
Donc j'ai en charge des projets d'écoquartiers, et dans ces écoquartiers, je suis venu ici au Festival du Vent pour chercher des solutions à moins de 2000 francs le mètre carré, parce que dans ces écoquartiers, le cahier des charges précise que 50% des logements doivent être des logements sociaux, parce que le meilleur moyen d'aider socialement ceux qui ont de petits revenus, c'est de leur permettre de ne pas bouffer tout leur fric dans des gaspillages énergétiques par la suite. Bon. Il faut une volonté politique, il y a quelques élus qui se mettent dans le coup, il faut une volonté d'opérateur, en l'occurrence c'est un opérateur qui s'appelle Pas-de-Calais Habitat, qui est tout à fait ordinaire, mais qui ne demande qu'à évoluer, donc c'est vrai qu'il commence à avoir le sens du plaisir, et là en l'occurrence c'est le plaisir qu'on peut rapprocher de la belle ouvrage dont on parlait longtemps. Hein. Et je suis très content parce que j'ai trouvé effectivement des systèmes d'assemblage préfabriqués, des choses comme ça, utilisant des matériaux qui ne sont pas nobles, ce ne sera pas du beau châtaignier, ça sera pas... mais on peut fabriquer des petits collectifs de 6 logements, ossature bois, etc., à moins de 1000 francs le mètre carré. Donc on peut... 1000 euros le mètre carré. Donc on rentre dans le cahier des charges et on a une action collective qui est de même nature qu'une action individuelle.
Bravo.
Bonsoir, président, monsieur.
Monsieur le
député. Oui, je voulais juste finir, je voulais me rappeler de quelqu'un pour dire qu'il est... Moi, je crois beaucoup à l'espoir. Je crois tellement à l'espoir que quand je suis en France, la première chose qui crée, c'est un club du riz, parce que je voyais que les gens faisaient trop la gueule. Quand on fait la gueule, quand on n'est pas heureux, on est faible. Quand on sourit, on fait trembler l'humanité. Je vous dis juste une chose que je me rappelle aujourd'hui, quand j'étais à la salle de torture de Pinochet, je me rappelle qu'un mec, chaque fois qu'il était torturé, il souriait à le tortionnaire. Il était fou, quoi. Il dit, écoute, ce mec-là, il ne devra jamais pleurer. Il m'a dit que ça. Après, j'étais à côté de Victor Jara, qui était un grand chanteur, qui chantait pour le peuple, tout ça. J'étais pas loin, j'ai vu cet homme chanter, si vous voulez, avec sa guitare. Les tortionnaires, ils l'ont coupé un doigt pour qu'il arrête de chanter. Mais je ne sais pas comment il a fait, il a continué à jouer. Ils l'ont coupé un autre doigt, il a continué à jouer. Et cet homme, ils n'ont pas pu l'arrêter de faire ce qu'ils l'ont tué, mais il a toujours chanté. Et je vous dis à vous une chose, si vous voulez vraiment vivre le, chantez toujours.
Nous allons conclure, donc on va nous en donner la parole à Hervé sur cette la révolution passe par notre bonheur.
Ah, alors, bah, tu vois, je vais faire deux conclusions. Alors. Parce qu'il y en a une, c'est que moi, je ne veux plus employer le mot révolution. Pour deux raisons. La première, c'est que j'aime beaucoup la révolution française, mais la révolution russe m'a laissé un souvenir un peu triste, disons. Et la deuxième, c'est que sans arrêt, le capitalisme maintenant emploie le mot révolution. Alors je ne sais pas, hier j'écoutais la radio et ils avaient inventé une nouvelle révolution, c'est d'être peut-être pour les bouchons de bouteilles. Enfin, chaque fois que tu fais quelque chose, tu fais la révolution. Donc je ne veux plus faire la révolution et je bannis ce mot de mon langage personnellement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'est-ce qu'on a fait là? On a discuté, on a fait politique. Alors je ne sais pas si Serge Aurue est encore là, mais est-ce que tu peux lui transmettre le message? Parce qu'on a déjà eu l'idée à Marseille, dans une... Et puis à chaque fois, c'est pareil, en fait, on discute. Et moi, je voudrais que dans ces endroits qui sont merveilleux, comme le Festival du Vent, et Dieu merci, il y en a partout, on fasse une sorte de truc un peu en rond. De façon à ce que, au début, bon, il y a la personne qui porte une parole, qui est quand même un travail, une expertise, donc c'est important, il dit, et puis il a un petit peu plus de droit à la parole, mais finalement, plein de choses ont des gens à dire. Or, vous ne voyez pas, par exemple, l'homme qui était un faux désespéré, vous ne l'avez pas fait, tout le monde, quoi, tout le monde. Hein. Et donc, je propose que, si on peut transmettre aux organisateurs du Festival de Vent, d'essayer, puis chacun d'entre eux, là, qui fait une fois, qu'on essaye de faire plus une agora de façon à ce que même dans notre façon de discuter, on fasse cette politique différente. Et qu'il n'y ait pas le gars qui est, ou la dame qui est à la tribune, et puis qui répand la parole, tu vois ce que je veux dire?
C'est déjà une distribution de pouvoir.
Oui, parce que la parole est un pouvoir. Et donc voilà, c'est une proposition, je préfère conclure sur une proposition.
Merci.
J'avais à laisser des photocopies d'un article où il dit de belles choses, n'hésitez pas. Allez, bonsoir.
Déjà, je t'avais demandé à Patrick Guérin si c'est d'accord que je mette en ligne ce moment. Et lui, si il attend que je mette en ligne.
Oui.